Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Ori and the Will of the Wisps, de Resident Evil 3, dont on a déjà parlé il y a quelques émissions, mais cette fois-ci, c'est bon, il est sorti, il est avec nous. Et on finira par quelques mots sur le jeu de Us 2, du studio autrichien Us 2, Assemble Whisker, qui vient de sortir de sa prison Apple Arcade pour rejoindre l'univers merveilleux du PC. Enfin bon, je dis ça, c'est juste que j'ai pu enfin y jouer. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Patrick et Léo. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Franz Durupt, bonjour Franz.
Bonjour Erwan.
Et Julie Le Baron, bonjour Julie.
Bonjour Erwan.
C'est la première fois que tu fais une édition confinée avec nous, Julie. C'est cool d'être là. Et donc on va commencer parce que donc c'est la deuxième émission confinée. Donc encore une fois pour l'univers technique et tout ça, on va essayer de faire comme on peut. Hein. Normalement ça se passe plutôt bien. Première question quand même, comment on est à la fin de la troisième semaine de confinement? Comment ça va, Patrick?
Ça va, non, la santé va bien, donc c'est le principal. Et puis j'ai envie de dire, on commence à se créer de nouveaux repères. Alors moi, tu sais, le jeu vidéo, ça a toujours été très important dans ma vie depuis des décennies maintenant, je ne vais pas les compter, mais ça fait quelques années. Et je trouve que le jeu vidéo, aujourd'hui, plus que jamais, je trouve qu'il a une importance d'ouverture. Je me transporte avec le jeu vidéo en ce moment. Enfin, je trouve que vraiment, il a toujours été important, mais il a une saveur très particulière aujourd'hui, le fait de pouvoir explorer des contrées, de pouvoir, de découvrir des histoires interactives, et plus que jamais, le jeu vidéo, il a une importance folle. Et j'ai toujours été passionné par le jeu vidéo, je ne vais pas vous apprendre ça aujourd'hui, mais je trouve que dans les circonstances actuelles, il est vraiment important. D'ailleurs, on en parlera un petit peu après, il y a des infos là-dessus, sur le regard du jeu vidéo qui change chez certains, mais vraiment, moi qui ai toujours été passionné par ça, je trouve que vraiment, c'est une fenêtre ouverte sur des mondes interactifs, sur des choses complètement folles. Et puis, ça nous change de ce... Moi, j'ai l'impression d'être dans The Room. Vous vous rappelez de Silent Hill, The Room? C'est un peu ça. Donc, le jeu vidéo est fascinant et j'adore le jeu vidéo plus que jamais. Voilà.
Franz, la semaine dernière, tu étais avec nous et tu étais en vacances. Donc, tu étais peut-être plus relax.
Chouette les vacances.
Ouais. Comment ça se passe pour toi?
J'ai tellement apprécié les vacances la semaine dernière que j'ai reposé une semaine. Donc, je suis toujours en vacances. Mais j'apprécie pas mal les vacances confinées. Je trouve ça pas mal. En fait, ça permet pour le coup vraiment de glander sans culpabiliser, quoi. Donc, de faire des grandes sessions jeux vidéo la nuit, de regarder des films et tout, c'est pas mal. Mais c'est vrai que, alors je te rejoins totalement, Patrick, sur ce que tu viens de dire. Mais moi, l'overdose a fait une gaieté quand même à un moment.
Attention, les doses, attention aux doses, pour qu'on en parle.
Oui, voilà. Hier, j'ai quand même fait une journée à peu près vierge de tout jeu, à part un tour quotidien dans Animal Crossing, puisque je me suis dit que je risquais de perdre un peu le goût du truc si je continue de me faire des trop grosses sessions. Voilà. Donc,
je pense que c'est facile.
Je suis dans une nouvelle phase où j'essaye de me raisonner un peu quand même dans ma consommation de jeux, mais c'est vrai que c'est un énorme plaisir. Je me suis fait des énormes sessions sur Hitman 2. C'est un vrai bonheur de pouvoir permettre de prendre 2h30 pour faire une mission dans Hitman, c'est génial.
Et puis en plus, c'est un jeu qui se dévoile dans l'art de la répétition, enfin, c'est vraiment adaptif, je pense.
Et toi, Julie, alors, t'étais pas là la semaine dernière, donc on n'avait pas de nouvelles. Comment ça se passe de ton côté ?
Bah moi, écoute, ça se passe bien. Enfin, je suis clairement pas une personne à plaindre, quoi. Enfin, je peux continuer à travailler. Toute activité de groupe me réjouit au plus haut point, donc je suis très contente de faire cette émission aujourd'hui. Non, ça va. Et puis c'est vrai que soudainement, c'est devenu complètement excusable de se livrer à des longues sessions de jeux vidéo. Donc écoute, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, tout va bien.
T'avais besoin d'excuses avant ?
Ouais, c'est ça.
Et toi, Erwan, du coup, ça se passe bien ? Tu racontes-nous un peu.
Oui, parce que toi, t'as quand même des enfants. Donc ça doit être
un paramètre important.
Écoute, ça se passe bien. Franchement, le truc aussi, c'est que dans cette période, quand tout va bien, et tu l'as dit, Patrick, au début, quand tout va bien, notamment au niveau de la santé, on se sent un peu non autorisé à se plaindre. Donc évidemment, de toute façon, il y a ce côté destin collectif où tout le monde étant dans le même bateau, on va pas commencer à se plaindre de sa propre situation. Je vais pas me plaindre parce que je dois rester chez moi. Ça ne rime à rien. Donc une fois acté cet état de fait, si on arrive à tout mettre en place sur le reste, on va voilà. Non, j'ai absolument pas à me plaindre. Et puis on vit la période du mieux qu'on peut, comme tout le monde. Et en plus, on arrive à enregistrer Silence en Joue toutes les semaines, donc c'est quand même pas mal. Au niveau de l'actualité du jeu vidéo, on va commencer par toi, Patrick, avec un anniversaire. Allez, une fois n'est pas coutume.
Eh oui, les 35 ans de Super Mario Bros. Alors, en fait, c'est une information. Il faut dire que tout est un peu recalculé en termes de planning. A priori, ce qui se dit en ce moment, c'est la rumeur du moment, mais qui fait beaucoup, beaucoup parler depuis quelques jours, c'était que Nintendo avait prévu des annonces assez importantes autour de Mario dans le contexte de l'E3 ou approchant de l'E3. En général, ils font toujours un Nintendo Direct autour de cette période-là. On sait que c'est le moment où pas mal de constructeurs annoncent des choses, qu'ils soient à l'E3, que ce soit une conférence ou pas, ou autre. Il y avait des choses de prévues visiblement chez Nintendo autour de l'E3 qui n'a pas lieu. Donc, tous les plannings de communication sont revus chez Nintendo et d'autres. On voit la QuakeCon aussi qui est bousculé, ça bouge pas mal. Donc ce qu'on sait, c'est les rumeurs qui tournent depuis quelques jours, c'est que des annonces vont être faites visiblement autour de jeux Mario pour les 35 ans du Super Mario Bros. Original. Et ce qui se dit, c'est une sorte de fantasme qui tourne dans chez les fans de Nintendo depuis des années. Ce serait évidemment, tout le monde s'attendait à des retours de volets 3D de la saga Mario. On parle de Mario Galaxy, on parle de Mario 64. Moi qui reste un de mes grands grands souvenirs de joueurs, et de Mario Sunshine. Donc la rumeur du moment, c'est ça que Nintendo va profiter des 35 ans de Super Mario Bros. Pour annoncer la ressortie de grands titres comme ça 3D de la saga sur Switch, remasterisé. Il y aurait aussi éventuellement, on reste dans la rumeur, donc tout ça va être a priori confirmé, il faut attendre des confirmations, mais ça bruise tellement que Eurogamer eux-mêmes, qui sont plutôt bien renseignés, alimentent ces informations-là, parlent de sources qui se regroupent, donc qui évoquent Mario Galaxy, qui évoquent Mario 64 et Mario Sunshine, qui évoquent aussi des nouveaux titres, un nouveau Paper Mario, et puis même une version deluxe de Super Mario 3D World. Rappelez-vous, c'est ce 3D isométrique génialissime qui était malheureusement sorti sur Wii U. Alors lui, il n'a pas eu de chance parce que c'était un très bon volet de la saga, mais qui a souffert d'une machine qui ne s'est pas très bien vendue, donc qui est resté un petit peu underground, qui est resté un petit peu... Donc lui, il a toute raison pour revenir en version remasterisée, donc version de luxe avec peut-être des nouveaux niveaux. Donc en tout cas, ça fait rêver parce qu'on attend tout ça depuis longtemps. Moi, le fait d'avoir joué, je vous en parlais la semaine dernière sur Dreams, à ce petit prototype de Mario 64 HD sur PS4, où on se retrouve devant le château comme ça en HD, c'est complètement fou. Et moi, Mario 64, c'est vraiment un souvenir de joueur très très fort. Moi, j'oublierai jamais ces instants voilà, de liberté qui étaient complètement folles à l'époque sur Nintendo 64. C'était fou. Donc, évidemment, grosse rumeur. Je pense que ça devrait se confirmer dans les jours qui viennent. C'est quand même un gros morceau parce que d'après ce qui se dit, ça serait vraiment une des grosses actualités 2020 de Nintendo cette année sur Switch. Ça faisait un moment qu'on voyait des commentaires sur qu'est-ce que va faire Nintendo cette année. C'est vrai qu'on n'a pas une vision, on avait Animal Crossing, mais là, sur les années, enfin, les mois à venir, on ne voyait pas trop comment l'année pourrait se caler chez Nintendo.
Juste sur les mois à venir, plus personne ne voit.
Oui, bah, évidemment. Mais c'est vrai que Nintendo, on aime bien avoir des repères, parce que Nintendo, on sait que c'est une sorte de voyant pour l'année en général. Ouais. C'est vrai que quand on sait que Nintendo sort un jeu, ça aide un petit peu à voir comment l'année se structure. Peut-être qu'on a la réponse là, c'est-à-dire que si nous rebalance des grands classiques de Mario 3D comme ça dans tous les sens, avec peut-être un planning tous les mois, on n'a aucune info là-dessus, mais ça pourrait être monstrueux si nous font ça. Ça serait assez colossal.
Donc il va juste à confirmer. Ouais, il va falloir
grosse rumeur.
Le tri entre la rumeur et le grand fantasme collectif.
Bien, ben oui, parce qu'évidemment, c'est alimenté et évidemment, ça a beaucoup bruissé sur les réseaux sociaux parce que tout le monde est au taquet là-dessus, parce que tout le monde a son Mario 3D. Je ne sais pas, vous, lequel vous attendriez le plus dans cette. Si tout ça se confirmait, je ne sais pas sur lequel vous sauteriez, sur lequel vous sauteriez immédiatement, par exemple.
Franz
Moi, c'est marrant parce que du coup, comme j'ai ressorti ma Wii U la semaine dernière, je me disais que j'allais me relancer dans Super Mario 3D World et là, bing, cette actualité est venue. Percuter cette envie, donc je reporte. Du coup, je fais le pari que je pourrais y jouer avec des nouveaux niveaux bientôt sur Switch. Donc, j'avoue que j'ai une très 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 bonne attente sur ce jeu.
Ouais,
sinon, je me replongerai bien dans Super Mario Sunshine, qui à un moment, qui un beau jour, m'avait fini par me dégoûter sur GameCube. Je sais plus pourquoi. J'avais dû être bloqué dans un niveau et tout d'un coup, j'avais eu un rejet de ce jeu. Je l'avais revendu et je l'ai regretté après.
Jamais réédité, voilà. Je crois, lui. Hein.
Non, jamais réédité. Non,
jamais ressorti.
Non, il n'existe que sur GameCube.
Ouais, il y a un boulevard.
Lui, ça vaudrait le coup. Parce qu'autant le Super Mario 64, lui, c'est un Mario qui est jouable déjà sur plein de plateformes.
Sur DS.
Sur DS. Il est disponible en console virtuelle. Sur Wii. Même si c'est maintenant daté. Mais...
Et Julie, t'as...
Moi, le truc, c'est vu que j'avais pas de Nintendo 64 ou de GameCube, l'essentiel de mes souvenirs d'enfance liés à Super Mario sont en 2D. Et je veux dire, tous mes vœux ont été exaucés quand le 3, qui est mon préféré, a été porté sur Switch, quoi. Mais là, en gros, je suis plutôt dans une optique de tout ce qui viendra est bon à prendre, quoi. Donc, je n'ai pas besoin de spéculer là-dessus.
En tout cas, on attend clairement, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va se confirmer. En tout cas, tous les voyants sont ouverts, donc on reviendra dessus.
Ouais, parce qu'il y a Eurogamer et je ne sais plus, il y a un deuxième site.
Oui, il y a tout un faisceau.
C'est quand même des sites assez sérieux, quoi. C'est pas le genre...
Erwan, Mario 64, évidemment.
Moi, je serais plus sur Mario Galaxy 1 et 2, en fait. C'est,
Carrément. Ouais, la Wii...
C'est vraiment les pour moi ça fait partie des Mario majeurs, je sais pas comment, canoniques, c'est ça qu'on c'est vraiment ceux qui avaient une originalité de ouf, enfin avec le système des planètes et tout ça, et je trouve que il y a un ensemble comme ça, Mario Galaxy 1 et 2, qui mériterait de faire un méta-jeu, un truc une sorte de, puis c'était la seule fois où il y avait deux jeux canoniques sur la même console. Il y a un Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2, c'était vraiment quelque chose d'assez unique. Pour te dire, quelques mois après, j'ai plus d'attrait pour Mario Galaxy 1 et 2 que pour Super Mario Odyssey, enfin le premier de la Switch.
Ouais. Vois,
dans mes souvenirs déjà, je trouve que Galaxy est au-dessus, en fait.
Ouais, même en termes de design, de look, il avait un cachet, ils avaient un cachet fou, ces deux jeux-là. Bon, allez, j'enchaîne rapidement sur une news de l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui aime bien le jeu vidéo actuellement, hein, qui a lancé une campagne qui s'appelle Play Apart Together, jouer séparé mais ensemble, qui a été mise en place, donc, cette initiative avec Activision Blizzard, Riot Games et Unity Technologies, qui consiste à encourager le jeu vidéo en multijoueur, donc, qui permet évidemment, hein, d'assurer le confinement et la distanciation physique entre les individus tout en se retrouvant dans ces fameux mondes virtuels. Alors concrètement, il y a plusieurs récompenses qui se débloquent, il y a des messages dans certains titres comme Call of Duty, League of Legends. Donc on va dire que c'est une bonne chose, c'est très bien, ça, j'en parlais tout à l'heure, le jeu vidéo, bah, il est fantastique pour ça, ce qui nous permet de d'explorer, quand on est confiné entre quatre murs, d'explorer des mondes virtuels ouverts et puis même de s'y retrouver à plusieurs. Donc ça, c'est génial. Après, il y a quand même un petit twist rigolo, c'est qu'on se rappelle quand même que l'OMS, il y a un an à peu près, c'était en mai, avait quand même validé la notion de trouble lié aux jeux vidéo. Donc bon, c'est très bien aujourd'hui de promouvoir évidemment les valeurs du jeu vidéo, mais bon, on sent quand même qu'il y a un petit retournement de point de vue, mais il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, donc c'est très bien. En tout cas, on est tout à fait d'accord sur le fait que...
On en avait longuement parlé ici, hein, de ce trouble lié au jeu vidéo de l'OMS. C'était pas non plus le truc qui débarquait de nulle part et qui n'était pas, argumenté. Hein. C'était,
non, bien sûr, évidemment. Mais genre, c'est sur la communication, sur la façon de mettre en avant, évidemment. Et les circonstances ont changé aussi en un an, évidemment. On n'est plus du tout dans les mêmes circonstances. Donc, en tout cas, c'est très bien de valoriser, évidemment, le fait que le jeu vidéo permet de se retrouver, mais dans des conditions qui correspondent aux impératifs de santé actuels.
Tout à fait. Franz, toi, c'était, il y a des chiffres qui sont sortis au niveau de la bonne santé financière du jeu vidéo en cette période de confinement.
Sur les ventes, je pense pas que l'OMS soit la responsable particulière de ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce que le jeu vidéo soit de toute façon une sorte de refuge pour plein de gens dans cette période. Et donc, effectivement, ça semble se confirmer dans les ventes de jeux et de consoles. Donc, c'est GameSell Data hein, qui étudie les ventes de jeux de 16 gros éditeurs dans 50 pays en téléchargement et dans 17 pays en vente physique, qui a publié des premières données, donc qui portent notamment sur la semaine du 16 mars, donc la semaine où le confinement a démarré en France. Et là, c'est assez spectaculaire quand même, parce que les ventes de jeux vidéo globalement, téléchargement et ventes physiques, ont augmenté de 60% cette semaine-là, pour atteindre 4,3 millions d'exemplaires. Alors, évidemment, c'est à modérer parce qu'il y a la semaine de la sortie d'Animal Crossing et de Doom,
qui sont des pics.
Mais même en retirant ces ventes, sachant que ces ventes sont elles-mêmes sans doute portées par le confinement, parce qu'Animal Crossing, par exemple, semble cartonner au-delà du raisonnable. Hein. Mais en retirant les ventes d'Animal Crossing et de Doom, on est quand même sur une hausse de 44% par rapport à la semaine d'avant. Donc, il y a quand même un signe assez fort de ce côté-là. Et ça se voit notamment sur les téléchargements où GameSell Data relève un bond de 180% des téléchargements en France pour la semaine du confinement, la semaine du 16 mars, avec des phénomènes similaires en Espagne la semaine précédente et en Italie aussi la semaine précédente où le confinement a démarré dans ces deux pays. Et la hausse est également visible sur le physique, plus 11% au total, si on ne compte pas Animal Crossing et Doom.
Malgré des réseaux, du coup, qui sont un peu impactés, qui sont même beaucoup impactés.
Ouais, en fait, ça, c'est global. Après, il y a des disparités selon les pays. C'est-à-dire, par exemple, au Royaume-Uni, où le confinement était, en gros, il y avait une incitation à rester chez soi, mais pas de confinement total. Là, il y a vraiment une explosion des ventes de jeux physiques, plus de 100%. Voilà.
Peut-être avant, pour prévoir un confinement peut-être plus important.
Et voilà, c'est ça. Exactement. Après, une fois que le confinement total est mis en place dans les pays, là, c'est plutôt des baisses, hein, globalement, de 2 à 8% sur les ventes physiques.
Ça fait pas beaucoup, quand même.
Ouais,
je suis un peu surpris.
Ils manquent pas à zéro,
ça,
là, bien sûr, parce que, ça me
semble. Non, je vous jure que c'est. Après, les gens se font peut-être livrer, mais.
Bah, on sait que Amazon n'a pas du tout supprimé ses livraisons et tout ça, mais.
Mais ça, il faut ralentir. Mais ça, c'est aussi aux joueurs de ralentir, je pense. Enfin, le physique, moi je suis pour le physique, moi je suis attaché aux galettes, mais là, vu les circonstances, sincèrement, évitons de faire livrer. Moi j'ai annulé ma précommande de PC Engine Mini, ça m'a fait mal, mais je l'ai fait, parce que je ne voulais pas qu'un livreur amène un carton chez moi, et que, parce que c'est de l'accessoire malgré tout. On parle de l'importance du jeu vidéo, mais on reste sur de l'accessoire, et c'est vrai que le moindre déplacement physique, évitons un maximum. Et le démat est là aujourd'hui. Et bon, vu les circonstances, je pense qu'il ne faut pas, faut pas transiger là-dessus.
Quoi. Ouais, ouais. Après, c'est sûr que pour les gens qui n'ont pas de console, il faut quand même qu'ils arrivent à s'en procurer une physique.
C'est ça. Oui, ah bah là.
Mais,
oui.
Effectivement, si on n'a pas de console, l'idéal, c'est de s'en passer pendant cette période, de se passer de jeux vidéo.
Voilà. Physique, en tout cas. Et puis, le démat est là, bien heureusement.
Ouais. Et là, donc, du coup, compter console, très rapidement, il y a aussi une très forte hausse constatée des ventes. Hein. 140% de hausse la première semaine de confinement. Mm-hmm. Voilà. Donc, les gens ont... Il y avait aussi une hausse la semaine d'avant le confinement, justement en anticipation. Et c'est quand même la semaine du confinement que ça a explosé. Donc, effectivement, les gens ont dû se faire pas mal livrer des consoles cette semaine-là.
Je crois que j'ai vu que la Switch avait des problèmes de dispo. Enfin, c'était un peu erratique chez certains revendeurs. Enfin, la Switch a toujours été un peu en flux tendu, mais visiblement, évidemment, elle fait partie des premiers achats à l'heure actuelle, parce que console familiale par définition.
Ah, c'est sûr, là, c'est le moment. Ouais.
C'est ce que je me demandais, en fait. Le chiffre de 140% de hausse, c'est toute plateforme confondue.
C'est toute plateforme confondue, il n'y a pas le détail. GameSell Data n'a pas le détail, donc c'est toute plateforme confondue, tout pays confondu, il n'y a pas de... C'est pas plus, on sait juste que tout le monde en profite certainement, mais il y a des chances que la Switch en profite particulièrement.
D'ailleurs, il y a eu, on l'a senti au tout début, je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des pannes. Il y a eu une panne Xbox Live pas très longue, de quelques heures. Il y a eu une panne eShop Nintendo où on pouvait plus non plus se connecter. C'est revenu, hein, ça n'a pas duré très longtemps, mais on a senti qu'il y avait eu un côté stress sur les réseaux, à mon avis, qui ont dû encaisser quand même un choc assez fort au moment où tout le monde s'est connecté pour jouer, télécharger des jeux. Mais depuis... Par eu d'autres problèmes. Il y a eu vraiment une sorte de cap à passer, je pense, notamment chez Nintendo, où vraiment il y a eu un blackout, je crois, de pas loin d'une journée, et puis c'est revenu et tout a l'air de bien fonctionner. Donc,
Je crois que Sony a baissé son débit sur PlayStation.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Et donc, Julie, c'est toujours dans le registre où le jeu vidéo peut servir d'alternative en cette période de confinement. On a dit sur les conseils de l'OMS où c'était un des moyens de se retrouver, de continuer à avoir une vie sociale. Et ça se retrouve dans les faits. Il y a évidemment ces semaines de confinement, c'est aussi un réservoir à anecdotes et à choses qui se sont passées dans les univers du jeu vidéo.
Oui, c'est ça, ouais. Je voulais en parler parce qu'effectivement, ça relève, comme tu l'as dit, du côté anecdotique, mais disons que vu le flux d'informations anxiogènes, je crois que j'avais besoin d'une petite news un peu qui fait plaisir. Et donc, ouais, je voulais vous parler un peu donc, des usages détournés qu'on a pu constater dans des jeux vidéo en cette période de confinement. Ça n'a finalement rien de nouveau parce qu'on avait déjà vu par le passé des événements dits de la vie réelle organisés dans des environnements virtuels. Il y avait eu, par exemple, des enterrements sur World of Warcraft, de gilets jaunes sur GTA Online et des mariages sur Second Life, par exemple. Et là, donc récemment, c'est un article de CNN qui évoque le mariage donc, de deux résidents du New Jersey, dont une femme qui travaille en hôpital est particulièrement exposée au Covid-19, donc qui ont dû annuler leur mariage et leurs amis ont organisé une petite cérémonie sur Animal Crossing.
C'est génial.
Un mariage virtuel avec des petites fleurs, des torches enflammées, bref, c'était mignon comme tout. Et plus étonnant, bon, autant Animal Crossing, l'univers très mignon, s'y prête facilement, mais on a pu voir des choses un peu plus étonnantes comme une cérémonie de remise de diplôme pour un pompier new-yorkais, en fait, qui a été organisée sur Apex Legends. Donc, là, pour le coup, c'est assez curieux parce qu'effectivement, le Battle Royale ne se prête pas trop à la célébration. Mais ils ont réussi à se débrouiller en prenant des personnages. Donc, genre, il y a un personnage qui s'appelle Bangalore, donc, qui est une militaire qui utilise un lance-fumigène donc, pour créer un effet fumé. Un autre qui s'appelle Crypto qui balance des drones de surveillance qui peuvent déployer des feux d'artifice. Donc, ils ont réussi à s'organiser pour. Ils sont fait massacrer les premières parties, hein, normal, parce qu'il y a plein de gens qui continuent à jouer normalement. Et ils ont réussi à organiser donc, ce petit moment de célébration à diffuser un speech ou un petit discours et un morceau de remise de diplôme via leur micro. Et moi, je trouve ça assez intéressant, en fait, de voir comment des petits événements se créent autour de ça. Et donc, l'article de CNN fait aussi référence à un enseignant donc, qui a donné des cours de géométrie via Half-Life Alyx quand il s'est rendu compte qu'il pouvait écrire sur les tableaux. Et ça, c'est un bon moyen aussi de motiver ses élèves parce que...
En même temps, il faut que les élèves aient des casques de réalité virtuelle.
Hein. Eh ben voilà, c'est ça. Alors, par contre, c'est là qu'on voit le confinement à deux vitesses, quoi, forcément.
Oui.
On n'est pas tous égaux face aux...
Alors, les gars, on bute le boss, machin, et on se retrouve dans la salle après, et là, on donne cours. Hein. Mais on flingue le boss avant, quand même, hein, parce que ça sera plus calme. Non, mais c'est génial, c'est génial.
Ouais, c'est ça. Alors, moi, il y a ce truc que j'ai constaté, parce que j'ai joué à pas mal de jeux en ligne, vu que c'est recommandé par l'OMS.
Ouais, complètement.
Les fruits et légumes, et les jeux vidéo. Ouais. Et j'ai constaté qu'un jeu auquel je joue souvent, qui s'appelle Dead by Daylight, qui est d'habitude...
C'est pas stressant, ça, du tout.
Oui, c'est ça. C'est plutôt une petite bulle de toxicité où, en fait, chaque match, si tu joues le tueur, tu te fais insulter derrière. Pareil quand tu joues survivant. Enfin, en gros, c'est 4 survivants contre un tueur. Et les premières parties que j'ai jouées alors que le confinement venait de commencer, les tueurs étaient sympas. Alors que, quand même, leur rôle, c'est de tuer, quoi. Genre, ils passaient leur temps donc à faire la visite de la map. Et après, je recevais des petits messages, genre, bon, bah, j'espère que ça va chez vous. Moi, je suis en Italie. Et ça, c'est assez...
Et donc, ils ne faisaient pas leur job de tuer les gens, en fait, c'est ça?
Exactement, ouais.
Ah oui.
Bon, après, ça reste trop rare pour perturber le gameplay général du jeu, mais de temps en temps, on voit ça, ouais.
C'est assez drôle, curieux, ouais.
Mais c'est vrai que ce serait un truc intéressant côté jeu en ligne, justement, qu'on sait, notamment sur les jeux de tir, les jeux compétitifs en ligne, que l'ambiance en termes sur les chats, sur les interactions entre joueurs ne sont pas le lieu le plus serein et le plus bienveillant de l'univers. Et je ne sais pas si ça a évolué, si c'est des pratiques. Ce que tu en dis, Julie, laisse penser qu'il y a peut-être un petit décalage vers la bienveillance. Mais je sais pas si c'est général, si
mais
ça
vraiment minime, hein, parce que je me dis un jeu comme parce qu'un jeu comme Dead by Daylight, ok, d'accord, hyper bienveillante, mais disons qu'elle est quand même beaucoup moins toxique que des jeux comme League of Legends ou enfin, disons, faudrait voir. Ouais,
ouais.
J'irai faire un tour dans Rocket League pour voir.
Ouais, ouais.
Ils sont toujours aussi ils sont toujours aussi méchants quand on rate un tir.
Après, je pense que c'est difficile de généraliser. Je pense c'est vrai qu'on parle de communauté, mais il y a tellement, ce sont des individus, donc chacun réagit différemment à des circonstances quand même exceptionnelles. Donc évidemment, je pense que ton cas de figure, Julie, est particulier. Je pense que selon les jeux, selon les personnes, c'est difficile peut-être d'avoir une idée par jeu, tu vois. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Dead by Daylight, c'est quand même pas le jeu peace par excellence. C'est paradoxal. Donc, je pense que c'est vraiment par personne, quoi, par comportement. Mais ça peut aussi évoluer sur le temps, effectivement. Il y a eu un choc. Il y a quelques jours, quelques semaines, il faudra voir sur la durée, si on parle de durée, ça on verra bien, il faudra voir comment tous ces comportements évoluent, effectivement.
Bah sinon, moi j'avais juste un tout petit sujet qui m'a fait, c'est Marius, hein, qui m'a repéré cette petite actualité, c'est que ce vendredi, hein, donc normalement on enregistre le jeudi et c'est diffusé vendredi, donc ce vendredi va commencer aux États-Unis un tournoi de NBA 2K, donc de NBA 2K20, diffusé à la télévision sur ESPN, entre 16 joueurs professionnels de NBA. On sait que la saison est terminée, quasiment, enfin bon, c'est pas officiellement terminé, mais on imagine mal, vu la situation, que les playoffs... que la saison trouve un moyen de se conclure. Et donc, en fait, il y a ce moment-là. Donc, c'est quand même 16 des grands joueurs. Enfin, bon, après, grand ou pas grand, mais on retrouve Kevin Durant, donc, qui a pas joué cette année parce qu'il était blessé, ou des jeunes stars comme Trae Young ou Devin Booker, avec des gens un peu confirmés, Andre Drummond, etc. Enfin, donc, plein de joueurs professionnels. Il y a 16 joueurs, comme ça, qui vont faire un tournoi de NBA 2K à la télé pour...
donc, le jeu vidéo. Qui va passer en direct.
C'est ça. Et donc voilà, des joueurs professionnels de basket qui vont jouer au meilleur jeu de basket. c'est assez marrant. Bon, déjà ouais. Oui, pardon.
C'est intéressant en fait, de voir comment les médias sportifs en fait s'adaptent, parce que forcément ils n'ont pas grand chose à raconter actuellement. Et ouais. Il me semble avoir vu aussi des pilotes de F1 donc streamer des jeux de F1 pour au moins que les lecteurs de médias sportifs aient quelque chose à se mettre sous la dent, quoi.
Bah ouais, dans ce cas-là, tu joues ton personnage, enfin, les sportifs en question vont jouer leur personnage, j'imagine.
Alors, normalement, si c'est des tournois, ça va être plutôt des tournois entre équipes. Alors, est-ce qu'ils vont prendre leurs propres équipes, ou en fait, le truc aussi, c'est que dans NBA 2K, tout est modulable. Tu peux prendre des équipes avec les meilleurs joueurs de l'histoire, ou des équipes totalement fabriquées en fonction de tels joueurs qui jouent à telle période de l'histoire. Enfin, c'est vraiment le niveau de détail est assez impressionnant. Et donc, on ne connaît pas encore les règles. Mais en tout cas, ça va être Ça va être intéressant à suivre. Et puis, a priori, bon, il y a des grandes chances que ESPN balance ça sur sa chaîne YouTube qui est très active. Donc, il y aura l'occasion de voir. Donc, ça va durer 10 jours. Donc, ça commence ce vendredi et ça dure pendant 10 jours. Et je voulais signaler un dernier point, c'est sur le Humble Bundle. Il y a un Humble Bundle donc de charité hein, comme c'est souvent le cas. Donc là c'est spécialement sur le Covid-19 hein. Donc bon alors c'est de la charité a priori beaucoup pour la partie américaine aux États-Unis, mais c'est juste pour signaler que donc le prix de base standard, évidemment c'est en pay what you want, mais le prix est à 25€ et en termes de jeu, alors je sais que parmi vous, parmi nos auditeurs, beaucoup ont déjà les jeux qui vont être dedans, mais on trouve, en termes de qualité, c'est assez ouf, avec du Into the Bridge, du Undertale, du The Witness, du Super Hot, il y a vraiment énormément Brothers, Tales of Two Sons, il y a énormément de jeux en termes de qualité, c'est un truc vraiment de malade, voilà, c'est un peu ça parcourt notamment le jeu indépendant, mais pas que. On retrouve même dans ce Humble Bundle des très bons comics comme Saga ou Criminal. Voilà, c'est juste pour signaler que c'est actuellement et pour encore 4 ou 5 jours disponible sur le site de Humble Bundle pour ceux qui n'auraient pas déjà leur ludothèque pleine à craquer de très bons jeux. Voilà, donc... On en est où? Bah oui, on en est quand même qu'il va falloir commencer à parler de l'actualité du jeu vidéo, hein, parce qu'on n'est pas, là non plus que pour parler de l'actualité générale. Et on va commencer avec ce jeu, je crois qu'il est sorti début mars, mais ça fait une éternité, hein, on a l'impression que c'était l'année dernière. Je crois que c'était le 12 mars, c'est Ori and the Will of the Wisps. Le premier épisode, Ori and the Blind Forest, c'était en 2015. C'était déjà Moon Studio, donc ce studio autrichien hein, fondé par Thomas Mahler, un ancien de Blizzard, et par des anciens qui a été un peu rompu au développement de AAA. C'était un peu le grand tournant, pas le grand tournant, mais c'était un peu Microsoft hein, qui est donc derrière ce studio et un peu l'orientation jeu indé, entre énormes guillemets évidemment, puisque vu que cette notion, et notamment dans ce cas-là, ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Mais donc, Ori and the Blind Forest avait déjà séduit énormément par son design, par son esthétique, par même évidemment son gameplay. Hein, donc, on est sur du Metroidvania dans un univers très onirique avec un esprit comme ça, cet esprit lumineux de la forêt. Il a fallu attendre 5 ans, pile 5 ans, parce qu'il y a eu des retards. Hein, il y a eu des retards. Je crois que la suite, donc celle dont on va parler aujourd'hui, Ori and the Will of the Wisps, a été annoncée dès 2017 à l'E3, avec une autre bande-annonce en 2018. Et la sortie était prévue en 2019. Finalement, elle a été repoussée une première fois en février, puis un mois supplémentaire pour sortir là début mars. Ori and the Will of the Wisps, donc 5 ans. Pour cette deuxième réalisation hein, du studio de Moon Studio, et donc on retrouve ce petit personnage. Je crois que s'il faut raconter le début, après est-ce que le scénario c'est le plus important, il y a une petite chouette qui s'appelle Kou, je crois, qui arrive au monde, elle grandit, elle est née avec une aile un petit peu cassée, donc il faut la réparer. Ori et Kou sont vol et finalement il y a une tempête, ils sont séparés et c'est là que le jeu commence. Quelles ont été tes impressions, Julie, là-dessus?
Bah alors moi, au début j'approchais ce jeu un peu à reculons. Bien particulière, c'est que mes confrères se refilaient un peu le test comme une patate chaude. Je me demandais pourquoi, parce que je veux dire le Ori and the Blind Forest avait été vachement plébiscité. Et en fait, j'ai compris que c'est parce qu'ils avaient peur de pleurer, parce que c'est un jeu qui est quand même très, très touchant, en fait, qui se déroule dans un univers ultra mignon, où on s'attache au personnage très rapidement. Et c'est vrai que, en l'espace de 3 minutes, la magie opère très rapidement, parce que déjà, le design hyper bien maîtrisée. Enfin, tous les personnages sont adorables et cette histoire de petite chouette qu'on vient d'accueillir dans sa petite famille marche vraiment très bien. Et donc, en plus, il y a l'introduction qui est assez magnifique, donc avec la musique qui est signée par Gareth Cocker, qui avait déjà travaillé sur le premier. Et ça, de ce point de vue-là, c'est indéniable. Enfin, les animations sont très belles. L'univers est vraiment enchanteur. Et disons que, en fait, moi, j'étais très surprise parce que très vite, en fait, arrive le premier combat de boss. Donc ça, c'est un peu c'est un peu inédit en fait dans l'univers d'Ori. C'est qu'on se tape un premier combat de boss à armes inégales. Et disons que la mise en scène est super impressionnante.
Ouais.
Et moi, j'ai été très vite séduite en tout cas, tant par l'univers visuel que par le gameplay. Donc qui permet, je trouve, une grande liberté d'approche en fait. On peut donc en gros, on a des compétences. Enfin, le personnage d'Ori a des compétences qu'on peut assigner à différentes touches. Donc 3 touches au total parce qu'il y en a une qui reste assignée au saut. Donc disons que selon les armes qu'on va débloquer, ça peut être une épée, un arc, on doit s'adapter face à chaque situation. Et donc déjà, ouais, c'est le côté extrêmement fluide du jeu rend ça vraiment très très agréable à découvrir. Et puis bah, ensuite après, il y a l'émerveillement chaque zone qu'on découvre en fait, qui dépend d'un type de gameplay particulier que j'ai pas trop envie de révéler ici. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, j'étais très agréablement surprise par le jeu.
Ce qui vraiment marque au début, c'est le degré de finition de ce jeu. C'est que ce soit en termes esthétiques et en termes de gameplay, parce que tu parlais des pouvoirs spéciaux parce que il faut savoir qu'on n'a pas que 3 pouvoirs spéciaux, c'est qu'on en a on en a toute une galerie. Je sais plus si on en a 12 ou 13 ou 20 à la fin, non, une dizaine je crois à la fin, ouais, mais on peut à la volée les réattribuer aux touches et ça marche super bien, c'est-à-dire que si on garde la gâchette gauche appuyée, on va pouvoir attribuer tel ou tel pouvoir à telle touche et ça peut se faire en milieu de combat, c'est-à-dire que si on a besoin de son pouvoir de soin mais qu'on va pas l'utiliser, on préfère avoir son arc, son épée et un autre truc machin, on peut réattribuer son pouvoir de soin en cours de route, même en milieu de combat, et tout ça marche dans une fluidité hyper impressionnante, et tout ça, c'est en termes de finition, et de finition générale en termes de gameplay, et alors, parlons même pas de l'esthétique, parce que alors, l'esthétique avec les différents plans de parallaxe derrière, avec tout l'univers, les couleurs et tout ça, c'est, en termes de finition, c'est quand même quelque chose de très, très, très impressionnant.
Oui, et puis en plus de ces pouvoirs qu'on peut attribuer, on a aussi des pouvoirs passifs, enfin, il y a vraiment... Ouais, en fait, c'est ça, c'est ce que j'ai le plus aimé, moi, au-delà de l'univers visuel dont on a déjà chanté les louanges, mais il y a vraiment ce côté, liberté d'approche, quoi. On peut choisir ses pouvoirs, changer d'arme. Et c'est vrai que, alors, au tout début, donc moi, quand j'y ai joué, il y avait encore quelques bugs qui, j'imagine, ont depuis été corrigés. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer, mais c'était assez énervant parce que pour un jeu aussi fluide et agréable à jouer, il y avait certaines touches qui s'inversaient, en fait, certains pouvoirs attribués à certaines touches qui s'inversaient.
Ça, moi, j'ai pas. Alors oui, je sais que j'ai attendu un petit peu avant d'y jouer. J'avais entendu parler de ces bugs. Moi, j'en ai pas eu, mis à part un tout petit bug sonore qui me semblait très très chelou. Ou alors c'est un choix de design un peu bizarre parce que j'avais un son qui grésillait, mais de manière assez aléatoire. Mais mis à part une toute petite pétouille sonore, le reste marche très bien. Toi, Patrick, tes impressions?
Alors je suis d'accord avec vous, il est difficile, attaquable ce jeu, visuellement, vous l'avez très bien dit, c'est superbe, les ambiances musicales sont magnifiques, le gameplay est super bien rodé, on sent que c'est un travail d'orfèvre en termes de jouabilité, le jeu est rarement à prendre en défaut en termes de dans le maniement du personnage, on a des quêtes annexes, il est magnifique, ça je vais pas vous le retirer, je suis complètement d'accord. Maintenant, pour moi, on est vraiment dans l'archétype même du Metroidvania, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, et alors, pour moi, tout est ouvert, ok, c'est beau, c'est magnifique, on prend un plaisir à jouer, mais moi, j'ai eu du mal à adhérer à l'univers. Alors, il y a un vrai sentiment de déjà-vu qui m'a pas lâché pendant le jeu. C'est vrai j'ai vraiment eu la sensation d'y avoir déjà joué il y a 5 ans, malgré ces nouveautés. Hein, Julie, t'en parlais, les boss, etc. Il y a de nouvelles choses, mais t'as quand même cette impression tenace ou d'un add-on ou d'une extension, moi, qui m'a pas lâché. Alors, il est presque, alors j'ai pas envie de dire politiquement correct, il est ludiquement correct pour moi ce jeu, il est propre, il est impeccable. C'est vraiment le jeu que tu montres à tes potes pour leur dire regardez, c'est ça le jeu vidéo aujourd'hui, c'est super bien fait, c'est joli. Mais pour moi, il lui manque cette étincelle de folie, ce petit truc qui va me faire, moi, craquer. C'est-à-dire que oui, il est beau, je ne peux pas vous contredire, il n'y a pas grand-chose, on ne peut pas dire de mal dessus, je trouve qu'il est, il est magnifique, les personnages sont attachants, etc. Mais il manque ce petit truc, moi, qui va me perturber, qui va me... Et puis, mine de rien, en 5 ans, il s'est passé des choses. Hein. On en a eu des Metroidvania, on a eu, c'était Hollow Knight, qui avait tapé fort aussi en termes de visuel,
ouais, souvent comparé,
d'ambiance, qui était vraiment magnifique. Et moi, malgré tout, tu vois, il y a 5 ans, c'était un choc. Aujourd'hui, oui, c'est très bien. On sent que c'est une version optimisée avec le moteur, avec des nouvelles choses, etc. Mais voilà, moi j'ai vraiment du mal à le critiquer en lui-même, mais il ne va pas me laisser une empreinte folle. Et je pense que, voilà, entre deux, il s'est passé des choses, clairement, et il lui manque un petit truc de folie. Alors après, c'est peut-être très subjectif, c'est peut-être très personnel. Et puis, je pense aussi qu'on a un rapport presque épidermique aux jeux vidéo en ce moment, vu les circonstances. Et tu vois, un jeu où il rentre dans ton viseur et ça marche ou non. Et il n'y a même pas d'explication. Je pense qu'il y a vraiment un côté... tu vois, du temps que tu vas en tout à l'heure, on a un rapport au temps qui est détendu, qui se disloque un petit peu en ce moment. Et ouais, ce jeu, j'ai pas eu le coup de foudre, voilà, mais malgré tous les voyants au vert. Parce que c'est pas une science exacte, le jeu vidéo. C'est aussi, tu vas craquer sur parfois des défauts, sur un personnage, sur un truc. Et là, c'est resté très lisse pour moi, presque scolaire, pour reprendre le fameux terme d'Erwan, qui est peut-être le pire qu'on peut coller sur un jeu vidéo. Et malgré tout, je suis désolé, je le trouve scolaire. J'ai pas eu l'étincelle. Voilà. Oui, après, c'est peut-être très personnel.
Il a un côté très conventionnel. Et ouais. En plus, ajoute à ça le truc, le fait que quand tu le critiques, tu as l'impression de faire un croche-patte à une petite chouette qui peut pas voler. Donc,
c'est pas fair play, ça. C'est pas fair play. Donc, ouais,
je vois ce que tu veux dire. Enfin, pour peu, même en adhérant un peu à l'univers, etc. Oui, c'est vrai que c'est très propre, cahier des charges, etc.
Cet aspect-là. Alors, je ne sais pas si on peut les comparer, mais je n'ai pas eu l'effet Dead Cells, où j'ai eu une sorte vraiment d'addiction Dead Cells quand je l'ai découvert. Ça m'a fait un truc... alors, ce n'est pas exactement le même jeu, évidemment, on ne peut pas vraiment comparer, mais quand même, tu vois, je n'ai pas eu du tout cet effet... j'ai pas eu ça. Après, c'est personnel aussi. Et heureusement, Dieu merci, le jeu vidéo est aussi subjectif. Donc voilà.
Mais c'est marrant parce que je comprends tout à fait ton point de vue, Patrick, parce que je dois avouer que je suis entré dans Ori, donc dans ce deuxième épisode d'Ori, avec exactement cet état d'esprit. C'est-à-dire que le côté onirique, cahier des charges, le effet waouh sur les couleurs, sur le design, sur l'aspect un peu Ghibli-like, pour être rapide, hein, c'est-à-dire ce côté onirique, retour à la nature, avec des méchants qui sont avec de l'énergie noire autour, avec... Bref, je suis rentré vraiment avec une sorte de défiance. Vous allez pas m'avoir, c'est pas possible. Je sais ce que c'est un Metroidvania, je sais ce que c'est le petit être de lumière qui va arriver dans des marécages sombres et qui va se faire attaquer par un méchant loup avec du feu. Enfin, vous allez pas m'avoir, c'est pas possible. Et en fait, je dois dire, alors comme tu le dis, je sais pas, c'est peut-être la période, c'est peut-être que c'est difficile à expliquer comment est-ce qu'on construit un rapport à un jeu en particulier, mais au bout de 2 ou 3 heures de jeu, il m'a vraiment accroché.
Les mécaniques sont impeccables.
Quand tu commences à débloquer tous les pouvoirs, quand tu commences... Et surtout, je trouve... Alors, je ne l'ai pas encore fini. Je crois qu'il fait entre 12 et 15 heures à peu près en tout. Mais je trouve qu'il y a... au-delà de cette finition, que ce soit la finition esthétique, que ce soit la finition de gameplay... Je trouve qu'il ne se repose jamais sur ses lauriers, c'est-à-dire qu'il va intégrer des nouvelles façons, des nouvelles mécaniques, un peu à la Nintendo, entre guillemets, où chaque nouveau niveau est aussi une occasion et d'apporter un nouveau décor et d'apporter un nouveau gameplay. Je trouve que du coup, on est tout le temps dans la découverte, et même si... Je dois avouer que le côté un peu onirique, le côté un peu transparent, entre guillemets, de ce petit personnage lumineux, esprit de la forêt lumineux, est peut-être le truc qui, moi, me touche le moins dans le jeu. Je trouve que tout le reste fonctionne super bien. Et même dans ce que tu dis, c'est vrai que les Metroidvania, il y en a eu beaucoup. Et on en a critiqué, je sais même plus lequel, il y a quelques semaines ou quelques mois où on a parlé comme ça d'un jeu. Ouais, c'est un Metroidvania, mais
ah
aujourd'hui,
oui, bien sûr.
Pour s'imposer dans les Metroidvania, faut quand même se lever tôt parce qu'il y a quand même il y a quand même de la concurrence. Alors je sais même plus, tu vois, c'était un jeu sans doute très oubliable.
Oui. Un peu monochrome là, oui, je me rappelle plus de son titre, mais oui. Mais tu vois, on a oublié son titre, c'est terrible, mais on l'a oublié.
Et voilà. Je trouve que justement Ori. Arrive à s'imposer dans cet univers de Metroidvania par cette accessibilité, par le fait qu'il se renouvelle. Il y a un truc, par exemple, dans les Metroidvania, il y a un truc qui, moi, m'insupporte beaucoup. Alors, je passe outre, hein, parce que j'aime bien ce genre de jeu, mais c'est le côté un peu aller à revenir à droite, à gauche, revenir sur les niveaux qu'on a déjà fait pour débloquer des trucs et tout ça. Et là, par exemple, la map étant très très bien faite, avec ce système de zoom, des zooms, où on voit vraiment où on est, où on voit son objectif, on voit dans quelle direction on doit aller, et ben je me balade dans les niveaux, dans les endroits qu'on a déjà visités. Et voilà, et je trouve franchement que c'est une belle réussite. Et pour tout dire, juste je termine là-dessus, c'est que pour cette émission, j'étais au courant du menu, c'était Ori et Resident Evil 3. pour le coup, je vais vous laisser un peu seul sur la deuxième partie parce que je suis un peu trop resté dans la forêt magique pour vouloir aller du côté de...
Non, je suis complètement d'accord que les mécaniques fonctionnent parfaitement, tu sens que c'est huilé, que les gens qui ont bossé dessus ont bien intégré ce qu'était un Metroidvania et ils l'ont très bien fait. Donc ça, oui, je comprends tout à fait que tu es complètement plongé dedans. Moi, j'ai eu quand même des petits soucis, c'est tout bête, mais de visibilité de l'action parfois. Je trouve que c'est confus. Alors, c'est là qu'il y a une richesse visuelle qui est admirable, c'est magnifique. Mais parfois, je trouve que ça peut un peu handicaper la visibilité. Des fois, tu te perds un peu dans le entre le sol, les personnages. Alors, ça fait peut-être aussi partie de l'expérience. Je pense que c'est peut-être voulu aussi quelque part d'avoir quelque chose de très organique, de très en mouvement toujours. Après, j'ai un peu tiqué parfois sur certains points de visibilité des niveaux.
Ouais. Au début, c'est un peu le bazar, effectivement. Ouais. Tu ne sais pas exactement ce qu'est un ennemi, ce qui va te faire du mal ou pas. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc que tu apprends vraiment à maîtriser au fur et à mesure du jeu, quoi. Et ce que tu disais, Erwan, sur le fait que oui, effectivement, t'as des allers-retours imposés, mais là, c'est vrai que c'est rendu beaucoup plus agréable par les pouvoirs que tu débloques par la suite. En fait, tu prends plaisir à revenir dans certains endroits. Il y a aussi quand même la possibilité de se téléporter d'un point de sauvegarde à un autre. Enfin, c'est grandement facilité. Et tant mieux, parce que les quêtes annexes ne sont pas le point fort du jeu, quoi.
Ouais, elles sont un peu légères. Mais elles sont là.
Elles sont là. Ouais, c'est bien d'en avoir. Ouais.
C'est bien.
Et après, juste un dernier point quand même, c'est que c'est pas, même si c'est un jeu très très beau, très très onirique, très très choupi par certains moments, c'est pas non plus... Alors moi, je trouve qu'en termes de difficulté, je trouve super bien dosé. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mode élite tout de suite. On doit pas être un méga pro du Metroidvania pour s'en sortir, parce que j'en suis pas un et que je m'en sors. Mais il y a ce côté challenge quand même, où je trouve qu'il nous prend pas non plus totalement par la main. Je sais pas si ça a été ton impression aussi, Julie, mais...
Ouais, je suis d'accord. Je pense notamment au combat de boss. Bon, après, pareil, je sais pas non plus la partie qui m'a le plus séduite, mais disons que il y a un côté un peu la mise en scène des boss vraiment est souvent hyper impressionnante. Enfin, c'est vraiment très chouette à découvrir. Mais il y a un côté quand même sac à PV qui revient, je trouve, de temps à autre.
Ouais.
Mais sinon, non, en termes de difficulté, c'est vrai que c'est on se prend pas. Ouais, comme tu dis, on se sent pas trop pris par la main. Ouais, on a quand même il y a besoin un peu de dosage, de timing et de talent.
Et moi, j'ai été assez agréablement surpris par le côté un peu flow qui arrive au bout d'un moment avec les triples sauts, les dashs, les trucs comme ça, où finalement, avec des actions dans les airs, on saute, on tire avec l'arc dans les airs. Et je trouve qu'il y a vraiment des belles trouvailles en termes de rythme de jeu aussi. C'est quelque chose qui apparaît peut-être un peu plus loin dans le jeu, mais en termes de rythmique, ils ont aussi peut-être su s'inspirer des jeux qui sont passés entre-temps, entre 2015 et 2020. Contrairement à ce que tu disais, Patrick, hein, je pense qu'ils se sont tenus à jour aussi.
J'ai jamais dit... Enfin oui, je suis d'accord. Oui, ils ont joué à ces jeux. Après, je me dis, est-ce que vraiment... J'ai l'impression que c'est presque une réponse à tout ça, mais ils auraient pu faire autre chose, tu vois. Ils auraient pu aussi secouer le modèle. Enfin, là, tu sens que c'est quand même. Enfin, c'est pour ça que le terme de scolaire, et moi, me reste vraiment plaqué dessus. C'est que c'est très bien, c'est difficilement critiquable, mais voilà. Il n'y a pas de folie là-dedans, c'est très propre. Le fait même d'intégrer des boss, pourquoi pas? Et je comprends la logique de gameplay, mais bon. Est-ce que c'est pas un peu suiveur? Est-ce que c'est pas pour justement se calquer à des schémas bien entendus? Alors, je te dis, c'est le jeu que tu peux vraiment conseiller à un pote sans trop de problèmes. Si, s'il est, tu vois, s'il aime bien ce genre-là, vas-y, parce que c'est joli, tu vas, c'est un très beau jeu, c'est un bon jeu, mais tu vas pas te réveiller forcément la nuit pour y rejouer.
Ouais. Donc c'est Ori and the Will of the Wisps, excusez mon accent, donc qu'on trouve pour 30 euros sur PC et Xbox, évidemment, vu que c'est quand même une production maison, Microsoft. Donc voilà, oui, je crois que c'est une trentaine d'euros sur les deux plateformes. C'est le moment d'accueillir la chronique de Jérémy Kletskin, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy!
Salut Erwan, cette semaine je vais vous parler d'un jeu assez spécial, ça va pas arriver très souvent ça. Il ne s'agit pas d'un jeu compétitif ni d'un jeu collaboratif, mais plutôt d'une expérience en commun. Au niveau de la mécanique, c'est un mélange très à la mode de Dixit et de Cards Against Humanity. Ce dernier, entre parenthèses, a été complètement plagié en France sous le nom de Blanc-Manger Coco. Et donc il s'agit de cette mode où on va utiliser des cartes pour stimuler notre imagination. Le jeu s'appelle Totem et son sous-titre c'est Le jeu qui fait du bien. Il se présente sous la forme d'une boîte de 80 cartes, voilà, c'est tout, 80 cartes. Et l'idée, ben, c'est de se faire des compliments, de s'envoyer du bonheur, de l'amour. Pour jouer à ça, il faut vraiment retirer toutes les barrières parce qu'au premier abord, bah, c'est un peu chelou. Chaque joueur va recevoir 7 cartes qui représentent des animaux, des aspects positifs de personnalité. Par exemple, le panda rassure par sa présence, le hibou est sincère quand il écoute les autres, ou le saumon qui n'abandonne jamais. On choisit tour à tour une personne dont on va construire le totem. Chaque joueur va choisir une carte qui correspond le mieux à sa personnalité selon eux et va lui donner face cachée. Il va les mélanger, puis les consulter et enfin les découvrir sur la table par ordre de préférence. Au fur et à mesure, chaque joueur va devoir expliquer son choix, donner des exemples de situations, décrire la personnalité du joueur dont on construit le totem. Une fois qu'on a fini avec les animaux, bah on prend les cartes qualité et on recommence. Quelques cartes, pour exemple, consistant, ingénieux, curieux, généreux, disponible, empathique, etc. Tous les joueurs vont décider ensemble d'une carte animale puis d'une carte qualité qui vont représenter le mieux la personne. Ce qui nous permettra en passant de nous attribuer les uns les autres des noms d'indiens. Apparemment, moi je suis un chameau authentique, mais on avait aussi une fourmi ambitieuse et un flamand intuitif. Je vous assure, on ne ressort pas complètement indemne d'une partie. Ce jeu est beaucoup utilisé en entreprise pour du team building ou du coaching, ou dans des cadres évidemment thérapeutiques. Moi, mon entourage était complètement hermétique au début, et c'est toujours le cas pour certains, mais je trouve qu'il y a une catégorie d'émotions comme ça qui peut remonter, et il n'y a pas grand-chose qui ressemble à une partie de totem. Ça crée une atmosphère de bienveillance, une bulle. Moi, je suis persuadé que dans certaines familles, il doit y avoir des parties absolument mémorables. Et voilà, Totem est distribué en France par BlackRock. Il y a marqué sur la boîte à partir de 8 ans de 3 à 8 joueurs. Il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes pour apprécier ce jeu. Et moi je vous dis à bientôt pour parler encore et toujours de jeux qui font ressortir le meilleur de votre personnalité. Bye bye!
Bye Jérémy, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, toujours, hein, toujours là. C'est cool. En même temps, lui, il est tout le temps en délocalisé dans Silence on joue, donc ça change pas beaucoup.
Il
Voilà.
était prêt. Il était prêt depuis toujours.
Il était prêt à être confiné, Jérémy. Non, personne n'est prêt. Bref, ce jeu-là. On en a parlé il y a quelques semaines. T'étais déjà là, Julie, pour en causer parce que vous aviez essayé, je crois, à l'époque, les deux premières heures de ce remake de Resident Evil. Ouais, je sais jamais. Vous le prononcez comment déjà, vous?
3.
Resident Evil 3.
Ouais, moi je dis Resident Evil, mais normalement, t'es censé
Ok,
dire
et
Resident Evil.
Patrick?
Resident Evil 3, à la
française. Ah bah,
quoi.
Formidable. Et bah, vous savez quoi, ça me plaît beaucoup. Donc en fait, donc on va parler de Resident Evil 3.
What the hell? How could this many people be infected?
This city is completely cut off, isolated.
Don't look at me like that, all right? I'm not an infected.
But right now, it's got a hard on for the only two stars left in town.
They don't need a bleeding heart like you getting in the way.
Star's office has to be in this direction. gets worse every night.
Donc si on se fixe sur la timeline Resident Evil, donc on est sur la timeline, la vraie sortie originale, donc c'est fin 99, début 2000 pour l'Europe, la timeline dans le jeu, on est 2 mois après les événements de Resident Evil 1, on est 24 heures avant les événements de Resident Evil 2, et au programme c'est Jill Valentine et Carlos Oliveira. Bien sûr, on parle du remake, après ce remake de RE2, donc l'année début 2019, c'est ça ?
L'année dernière,
c'est ça. Bien, on a le remake de Resident Evil 3. Eh bien, vu que tu n'as pas parlé sur le jeu précédent, Franz, je vais te laisser la parole. Quelles sont tes impressions sur ce remake ?
Eh ben, écoute, pour le dire très vite, très très bonnes impressions. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. Voilà. J'ai fini une première fois là, et j'ai beaucoup apprécié. Alors, moi, mon histoire avec la série Resident Evil, elle est assez limitée en fait. C'est-à-dire, j'avais pas de PlayStation, donc typiquement Resident Evil 2, Resident Evil 3, c'est des jeux que je découvre là maintenant hein, grâce à leur remake, et avec beaucoup de plaisir en fait, hein, parce que j'avoue, je trouve que la démarche de Capcom de donner cette nouvelle nouvel écran à ces jeux est vraiment, moi, je trouve bienvenue pour le coup, parce que c'est vrai que moi, j'étais rentré dans la série par le remake du premier sur GameCube, puis après Resident Evil 0, Resident Evil 4. Et donc, c'est vrai qu'après avoir fait ces jeux-là, j'ai jamais eu la motivation de me dire, bon, et maintenant, je vais me plonger dans les vieux Resident Evil old school PlayStation. Ouais. Ça m'a toujours un peu effrayé, quoi.
Mais donc, il faut pas. Il faudra que tu les fasses aussi un jour, parce qu'ils sont dans leur jeu, ils sont bien. Tu verras.
Fais un petit code Veronica.
Je me tâte à faire Code Veronica quand même. Ouais.
Mais à mon avis, c'est peut-être le prochain à être fait, mais on verra.
Ouais, on verra ça. Ouais. En tout cas, moi j'avais beaucoup aimé le remake du 2 l'année dernière, et j'ai beaucoup apprécié le 3 aussi là, parce que moi ce que j'apprécie là dans ces jeux, c'est je suis content, je dois dire, de voir des éditeurs comme Capcom, des éditeurs japonais revenir dans cette forme là sur cette génération de consoles. Moi, c'est ça qui me fait beaucoup plaisir quand même dans cette séquence là, parce que voilà, la génération PS3, Xbox 360, c'était vraiment une génération un peu noire pour ces éditeurs, moi, je trouvais, que ce soit Konami, Capcom, et on les sentait vraiment perdus sur cette génération précédente.
C'est vrai.
Et là ce retour en forme, voilà, moi je trouve que Resident Evil 2 comme le 3, donc après on va pouvoir discuter plus précisément des différents équilibrages des deux jeux, parce qu'en fait ils ont des feelings assez différents au final, mais en tout cas je trouve que c'est du jeu à la japonaise. Moi, comme j'aime, voilà, avec à la fois très ludique, des purs niveaux de jeux vidéo extrêmement bien construits, des progressions extrêmement bien fichues, extrêmement bien faites. Voilà, une fois qu'on est dans le jeu, moi, je trouve qu'on n'a jamais envie on a toujours envie d'aller plus loin, de découvrir ce que le jeu a en réserve, les secrets, l'exploration, etc. Et avec, alors, ce graphisme, je trouve toujours une beauté sidérante, quoi, vraiment.
RE Engine.
Extraordinaire, ouais. Vraiment, ils ont trouvé la perle quand même en créant ce moteur, parce que je trouve que c'est incroyable de beauté. L'ouverture du jeu, donc dans Raccoon City qui est dévasté par l'invasion zombie, est vraiment extrêmement, extrêmement réussie, extrêmement belle. Alors, c'est sûr, on est vraiment dans un jeu. Alors, voilà, on peut parler du feeling du jeu, hein, par rapport à Resident Evil 2 qui était encore un Resident Evil très axé exploration. Là, c'est sûr, on est vraiment pris dans une forme de film d'action totale. Hein, c'est-à-dire, c'est une fuite en avant, quoi. Vraiment, c'est vraiment une fuite en avant. Le jeu ne crée pas cet attachement au lieu que pouvait avoir le premier ou le deux. Comme ce sont des lieux qu'on explore en permanence, on finit par s'attacher. Moi, j'ai fini par adorer le manoir Spencer. J'ai fini par beaucoup aimer le commissariat de Raccoon City aussi. Bon, là, c'est sûr, on n'a pas ce même attachement qui se crée au lieu, mais par contre, c'est vraiment une fuite en avant perpétuelle avec cette menace terrible. Moi, que je trouve à la fois génial et horrible, qui est ce Némésis, donc cette créature horrible qui créée par le virus dégénéré là, qui nous poursuit partout dans le jeu. C'est génial, et c'est génial, et en même temps c'est insupportable. Je veux dire, ça crée un stress quand même.
Bah, il sait se tenir au début, il est plutôt stylé dans les premières heures, et puis vers la fin, il est plus présentable. Hein. Il a chelou vers la fin.
Donc voilà, c'est un peu mes impressions. Après, on va pouvoir ensemble rentrer dans les détails du système de jeu, mais j'ai beaucoup aimé. On lui reproche à sa courte durée de vie. C'est vrai que moi je l'ai fini en 6h30 en prenant bien mon temps, parce que j'aime bien explorer quand même. Voilà, moi je trouve que c'est bien au final, par rapport au 2 qui était plus long, le remake du 2 qui était plus long, mais je trouvais un peu redondant sur la fin, un peu franchement, moi à la fin dans le 2, je peux pas dire, j'ai toujours été passionné par toute la séquence en laboratoire.
Ouais, c'est là, qui fait ça en plus avec les deux campagnes similaires. Ouais.
Ouais, voilà. Là, vraiment, je me suis pas du tout ennuyé dans ce jeu. J'ai dégusté de bout en bout, quoi.
Julie, donc toi, tu avais pu jouer, je crois, aux deux premières heures.
Pour oui, le c'est coup, ça. Ouais. Sans douter que c'était la moitié du jeu. Non.
Oui. Ah oui, en plus. Un tiers, quoi.
Ouais, j'étais très enthousiasmée par les deux. Et d'ailleurs, j'étais enthousiasmée tout au long du jeu. En fait, vraiment, moi, pareil, il m'a fallu à peu près 7 heures, sachant que je prends énormément mon temps. J'aime bien tout explorer, tout faire propre, lire les textes 3 fois s'il le faut. Donc, ouais, j'ai bien pris mon temps. Effectivement, c'est très court. Donc, on a ce côté où on reste un peu sur sa fin. Mais j'aimerais d'abord parler des points positifs parce que c'est intéressant ce que tu dis, Franz, vu que tu n'as pas joué au jeu initial, mais finalement, ton ressenti... comment dire, et à mettre en parallèle avec le virage qu'a pris Capcom en 99, en fait, quand c'est effectivement un virage plus action, c'est le moment où la franchise a pris un côté moins exploration, moins d'énigmes, beaucoup plus de balles, les munitions sont beaucoup plus abondantes qu'avant, on a aussi un arsenal d'armes assez impressionnant, on a un total de 10 à débloquer dans la campagne, et il y a aussi ce côté, effectivement, on a moins d'attachement au lieu qu'on va explorer. Comme tu dis, ouais, c'est une fuite, en fait. Enfin, genre, on a envie de fuir en permanence. Il n'empêche que les environnements sont vraiment, comme tu l'as dit, hyper bien réussis. Enfin, genre, vraiment, la ville de Raccoon City, au début, c'est vraiment très, très détaillé et tout. Il y a le Air Engine qui fait des merveilles, enfin, vraiment sur tout ce qui est jeu de lumière, les ombres de Jill Valentine qui se dessinent sur les murs. Enfin,
les zombies, le rendu des zombies est glaçant. Et faire peur avec un zombie en 2020, c'est pas évident hein, parce qu'ils font partie du décor de la culture pop. Et là, je trouve qu'ils arrivent à recréer l'effroi avec le zombie de base qui, en plus, est assez costaud à supprimer. Ils sont vraiment inquiétants.
Ouais, c'est ça, à part le côté sans relâche. Le fait qu'il puisse ouvrir des portes, qu'il continue à t'attaquer alors qu'il rampe, enfin, il y a toujours ce truc qui marche très bien. Alors après, il y a ce truc qui m'a un peu fait tiquer, mais il y a une logique dans tout ça, c'est le fait que beaucoup d'éléments du 2 aient été recyclés, donc aussi bien en termes de gameplay, tu retrouves vraiment tout le côté la carte, où tu peux voir tous les objets que tu as laissés, etc., les zones en cours d'exploration, mais il y a aussi carrément des zombies qu'on retrouve, ce qui n'est pas illogique, parce que ça se passe 24 heures avant le 2, donc ça paraît normal qu'on puisse en recroiser, mais il y a des moments qui font très... ressusciter du 2 en fait quoi. Forcément la phase commissariat après pour ce qui est des ajouts je voulais parler d'un truc parce que on parle du RE Engine, il y avait un commentaire lors de la preview, enfin sur les forums de Silence on Joue lors de la preview quand on a parlé de la preview du 3 qui évoquait, enfin qui était, c'était Manche à balai qui était outré du fait qu'on parle pas de la vraie star du jeu, à savoir les cheveux de Carlos. Et je suis d'accord, il est temps de réhabiliter les cheveux de Carlos. Incroyablement bien détaillé, c'est vraiment une chief comme on en voit rarement dans les
jeux. Qui bouge pendant l'action, etc.
Ouais, c'est assez incroyable. Donc Carlos qui est un des personnages jouables et que tu peux faire bouger, enfin personne.
Physique capillaire.
Ouais, ça c'est vraiment au niveau des détails, enfin le design de G. Valentine et de Carlos c'est vraiment très très réussi, ils sont très agréables à incarner, enfin il y a tout ce système aussi d'esquive donc qui effectivement est difficile à maîtriser, mais alors une fois que tu le maîtrises en fait ça exige vraiment un bon sens du timing, c'est au moment où tu te fais attaquer par un zombie il faut appuyer sur R1 et quand tu arrives
Je te rappelle, Julien, on avait eu des doutes dessus. Hein, je ne sais pas si tu te rappelles la version qu'on avait eue en main. Et là, je trouve que c'est vrai que ça fonctionne bien.
Ouais, c'est ça. Une fois que tu as le temps de t'y faire, et puis c'est assez jouissif en fait, de voir Carlos défoncer les zombies à grand renfort de coups de poing. La prise en main est vraie. Mais après, voilà, il y a ce truc de la durée de vie extrêmement courte qui avait déjà été reprochée à l'époque. Ce serait tout à fait pardonnable s'ils n'avaient pas occulté en fait, des parties du jeu original que beaucoup de gens attendaient au tournant. Quoi. Ça, c'est un truc un peu décevant. Il y a beaucoup d'ajouts en fait qui étaient assez inédits dans Resident Evil, comme il y a le mode mercenaire, il y a aussi donc un jeu de rapidité, il y a le fait de pouvoir faire des décisions en pleine action et les fins alternatives qui ont complètement disparu.
Le QTE, donc, une sorte de QTE avant l'heure, en 99, mais oui, c'était du choix rapide, vite, vous faites ça ou ça, et ça complètement. C'est étonnant parce que aujourd'hui, c'est très à la mode ce genre de choses, et c'est étonnant qu'ils aient supprimé ces arcs narratifs à choix multiples. C'est assez bizarre. Alors oui, on est dans une action 3D, mais c'est dommage qu'ils aient retiré ça. Puis comme tu disais, Julie, très bien, il y a des passages qui sautent. Moi, je me rappelle un passage dans un cimetière qui était très gothique, où là, on retrouvait justement la fibre originelle de Resident Evil et qui était justement ce côté boisé, tu vois, plus gothique en fait que là, on perd. Et là, on se retrouve très vite dans ces corridors de labo typiques des deuxièmes parties de Resident Evil, où là, bon, bah, t'as une ambiance très froide de laboratoire et ouais, ça c'est un peu dommage. Ouais. Ouais, il y a des coupes certaines pour les joueurs qui ont joué à l'original. Il y a des chocs. Par contre, il y a des bonnes surprises. Hein. Il y a des, notamment, je vais pas trop spoiler, mais des scènes, on va dire oniriques, qui sont injectées en plus, dont une introduction monumentale. Hein. Je vais pas en dire trop, mais vraiment la séquence d'introduction, elle est bluffante. Elle n'était pas du tout.
Elle n'était pas dans l'original parce que ça, je l'ai fait pour le coup, et c'est vrai qu'elle est, c'est une belle claque.
Elle est géniale. Elle est géniale. Et c'est, tu dis, c'est ça qu'on aurait voulu dans un Resident au cinéma, quoi. Voilà, il nous fallait un film avec les épaules pour faire une scène comme ça. Et ben là, c'est Capcom qui l'a fait dans son jeu. Donc là, t'applaudis. C'est vrai que dans la scène, on va découvrir là, on va pas en parler, mais voilà, le début du jeu, d'office, il te montre. C'est presque un postulat pour moi, cette scène. C'est te dire, bon, t'es dans un remake, mec, mais tu vas découvrir des trucs, tu vas vivre des nouvelles choses. Et c'est vrai que cette scène, elle est marquante parce que, bah, elle te marque. Et puis, il y en a une autre un peu plus loin. Pareil, onirique, mais qui est marquante. Enfin, t'as des images que t'oublies pas, en fait, qui te marquent, vraiment. Et ça, c'est vraiment une réussite, je trouve. Ces séquences, en plus, elles sont réussies.
Ouais. Les phases avec le Némésis, enfin moi vraiment chacune d'elles m'a marqué en fait. Enfin c'est il y a vraiment ce retour. Ouais, enfin pareil, je ne veux pas trop en révéler là-dessus, mais en tout cas au début je craignais un peu qu'il y ait ce côté Némésis qui te poursuit sans relâche pendant tout le jeu. J'avais peur que ça entraîne des difficultés.
Mais c'est finalement scripté, hein. On est sur du script.
Ouais, c'est ça.
Mais qui du coup leur permet. C'est du script, mais qui leur permet justement de jauger un script, de le mettre en place quand il faut, et de finalement quand tu joues, en tout cas ton premier run, t'es sous pression tout le temps parce que tu ne sais pas quand le script va se mettre en place. Et pour moi, ça participe vraiment. Pour moi, c'est vraiment l'ambiance de ce Resident 3, c'est le côté crépusculaire. Sans trop en dire, on est dans Raccoon City, on a une escouade qui a été envoyée sur place pour nettoyer la ville. La ville est condamnée, on va la prendre assez vite. Et finalement, on est vraiment sur une sorte d'apocalypse et on traverse vraiment une ville en train de s'effondrer. Et je trouve que cette vue troisième personne qui est infusée maintenant ici, elle te permet vraiment d'avoir des... T'as une vraie ambiance qui est développée. Ça, c'est pas forcément évident parce qu'on est sur un jeu plutôt urbain dans une première partie qui ne te crée pas de peur. Je trouve qu'il ne joue pas sur la peur véritablement. T'as quelques jumpscares, mais plus un zombie qui t'attrape la jambe. Par contre, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des moments t'as des sortes de fulgurances de photographie. Je pense notamment à un passage à l'hôpital, dans l'hôpital où t'as des jeux de lumière. Puis bon, l'hôpital en ce moment, c'est vrai qu'on joue à ces jeux-là dans des conditions particulières. À un moment, j'ai eu un succès urgence surchargé et j'ai sursauté. Je me suis dit, waouh, ah, quand même,
c'est drôle parce que. Aussi, ouais, c'est...
Mais tu joues, mais on pourra. Je pense qu'on se réécoutera, j'espère, un jour en se disant, ouais, on a joué à ces jeux-là, ils sont marqués au fer blanc de cette époque. Bon, bref. En tout cas, il y a une photographie, notamment des salles où j'ai noté dans l'hôpital où tu as des jeux de lumière assez fascinants avec peut-être du bleu, du rouge. Enfin, tu as une photographie, on parle rarement de photographie dans le jeu vidéo, mais là, je trouve qu'il y a vraiment des performances. Comme vous en parliez, le moteur est assez puissant pour permettre. Justement, je pense que les développeurs s'amusent à créer vraiment des séquences d'ambiance vraiment, vraiment, vraiment marquantes. Après, oui, il y a on peut développer là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a la durée de vie qui est frustrante parce que le jeu est bon. On prend plaisir.
C'est vrai, comme tu disais. C'est un très bon condensé d'action.
Une fois que tu disais, France, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus le lâcher parce que tu es pris dans le scénar, tu as envie de savoir jusqu'où ça va, tu as cet ultimatum, tu sais que la ville va. Il va se passer des choses, donc tu ne lâches pas le jeu, tu le fais quasiment d'une traite et tu n'as qu'une envie, c'est de le finir. Alors, tu sens que Capcom a ajouté un système de goodies, de boutiques avec une sorte de crédit interne au jeu. On ne remet pas d'argent, mais tu débloques des trucs, donc tu vas débloquer des vêtements, etc. Mais tu n'as pas cette rejouabilité du 2 avec justement, ce qui était génial, hein, cette rencontre entre les scénarios où tu refaisais avec Léon, avec l'autre personnage. T'as pu ça, et du coup, c'est vrai que ces 6 heures, quand tu les as finies, bon, bah, tu y reviens. Moi, d'ailleurs, je vais vous le dire franchement, je l'ai fini une fois, j'ai relancé tout de suite une partie.
Oui, pareil.
En mode difficile, parce que je voulais. J'avais envie d'y retourner tout de suite, parce que je le trouve fascinant. Il est fascinant, ce jeu. L'ambiance est fascinante. Il y a un truc fascinant. Mais tu te dis, mince, quand même, c'est un peu court. Moi, je regrette, c'est tout bête. Alors, je pense que ça aurait été très difficile à mettre en place, mais je lui disais, c'est dommage, parce que RE2, on l'a pour la plupart déjà fait, et tu dis c'est dommage qu'il n'y ait pas eu même une prise en compte des sauvegardes. Tu as des moments où RE2, quand tu faisais ta partie en deux fois, tu avais une prise en compte évidemment de ce qu'avait fait le personnage avant, et là tu aurais pu te dire dans le RE3, tu aurais presque pu avoir une prise en compte des sauvegardes du 2 pour les joueurs qui l'avaient fait. Je pense que ça aurait été très compliqué à mettre en place, mais tu as vraiment l'impression d'un tronçon en plus de RE2 en fait. Et
ouais, mais en fait, moi à un moment, je me suis même dit, est-ce que ça aurait pas été presque plus malin de la part de Capcom de faire un énorme jeu Resident Evil 2 3, quoi.
Oui,
une sorte de gros remake des deux ensemble, qui serait totalement lié.
Je me demande même si c'était pas prévu à la base au tout début.
Ah, bah, je sais pas. En tout cas, clairement, les deux jeux sont vraiment frères. Après, pour le coup, je trouve que, bon, en tout cas, tous les Resident Evil que j'ai fait, même si je les ai pas tous faits, je trouve que c'est quand même une série qui s'apprécie aussi dans la rejouabilité, dans le fait de refaire l'aventure. C'est vrai que là, c'est pareil, j'ai très envie tout de suite de refaire Resident Evil 3. Et je me souviens que le 1 sur GameCube, j'avais dû le faire 3-4 fois, le 4, j'ai dû le faire 4-5 fois, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que c'est des jeux, au final, je trouve que c'est pas forcément si grave que le jeu soit court. Moi, je sais que j'ai pas forcément de problème avec l'idée de me dire, voilà, je vais le reparcourir, je vais le refaire, je vais essayer de faire des bons parcours, des bonnes,
mieux jouer.
De perfectionner mon jeu, etc. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est pas forcément si grave que ça. Je trouve, pour le coup, c'est vraiment des jeux, les Resident Evil, en tout cas, de mon expérience avec, c'est vraiment des jeux que j'apprécie encore plus au deuxième ou au troisième run, quoi.
Et puis, comme je le disais, les scènes oniriques, enfin, les scènes en plus, elles sont pas là en mode tape à l'œil. Elles apportent vraiment une patine au personnage. Elles apportent, par rapport aux trois d'origine, le personnage de Jill est développé. Enfin, tu ressens des choses en plus par rapport à elle et tu la connais mieux et c'est flagrant. Et là, tu te dis, bah oui, un remake, ça sert à ça aussi. C'est-à-dire que tu as un nouveau moteur, tu as de nouveaux visuels, mais tu as surtout un personnage qui s'enrichit, qui prend de la patine. Et ça, c'est important de revisiter pour ça aussi. Et là, pour ça, je trouve que c'est réussi. Puis il y a plein de petits, quand t'aimes bien la série comme moi, t'as plein de petites choses sur le lore Resident Evil. On pourrait parler une heure de Brad Vickers, son apparition dans le jeu, comment il est traité, les clins d'œil. Il y a plein de choses qui te raccordent au précédent jeu. Donc tout ça fonctionne très très bien. Quand t'aimes bien la série, tu te fais plaisir parce que t'as plein de petits détails qui te renvoient à d'autres volets de la saga. Donc tout ça fonctionne évidemment très très bien. Et t'as qu'une envie même, c'est de relancer le 2 dans la foulée parce que t'as envie de revisiter. On rappelle, scénaristiquement, on est dans les événements du 2 avant, après, donc on est tout ça sans chasse. Donc t'as qu'une envie, c'est de relancer les jeux. En fait, comme tu disais, Franz, le 2 et 3 sont tellement liés que t'as envie de les refaire dans la foulée, en fait, directement.
Est-ce qu'on retrouve cette orientation parce que le point principal de RE3, et tu en as parlé, Julie, hein, c'est l'orientation très très action, très le tournant action de Capcom en général et de la licence Resident Evil en particulier. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'on est on est plus dans une sorte d'abondance de zombies aussi, de chair à canon qui arrive par rapport, en tout cas dans les premiers temps du 2 où les zombies sont un peu plus au compte-gouttes. Ici, on en a plus, on a plus de munitions. Est-ce que ça dérive pas vers le jeu de tir? Est-ce que ça c'est quoi? C'est ce changement, on le retrouve aussi dans ce remake?
Ouais, on est plus dans l'action en contexte horrifique que dans le survival horror. Sens pur, ouais, comme tu l'as dit, par l'abondance des munitions, le fait que parfois effectivement il y ait des scènes d'action, enfin vraiment, moi il y a des scènes que j'ai refaites encore et encore où t'as des hordes, vraiment des hordes de zombies qui débarquent. Par rapport à la rejouabilité, donc Patrick parlait du fait qu'on puisse donc débloquer des goodies. Alors finalement, pour moi en tout cas, ça marche plutôt bien dans le sens où tu peux débloquer des armes, mais qui sont complètement délirantes. T'as vraiment genre un couteau qui permet d'enflammer tes ennemis. T'as un lance-roquette illimité.
Je l'ai pas fait ça encore.
Voilà, c'est très loin. Pour l'instant, j'y travaille. Mais en gros, qui exige en fait de remplir des petits défis, hein, type tuer tel nombre de zombies avec un pistolet, etc. Mais disons qu'en fait, moi, j'ai très hâte. En fait, je verrai à mon sixième run quand j'aurai fait assez de défis. je sais pas. J'ai vraiment très hâte en fait de voir ce que va donner une partie avec un lance-roquette illimité.
Ah, c'est génial.
Ce qui permet de régénérer ma santé. Là-dessus, on voit le côté action assumée, quoi.
Ouais, complètement.
Voilà.
Mais c'était, on se rappelle que pour moi, c'est un épisode mineur, le 3 à l'époque. Il est mineur parce qu'on l'avait rappelé la dernière fois, c'est qu'il sort au moment où Code Veronica arrive au Japon, je crois. Enfin, ils se télescopent tous les deux. Donc, la plupart des joueurs ont déjà la tête sur la next-gen avec la version Dreamcast de Code Veronica. Je crois qu'ils arrivent en même temps. On a déjà la tête sur la suite. Celui-ci était plus action. Il apportait finalement presque il apportait des choses au lore, à l'univers de Resident, mais il était presque, on pouvait presque s'en passer, en fait, hein. Et c'est pour ça qu'il était assez prémonitoire à l'époque de ce qui allait arriver avec le 4, avec un rapport à l'action plus direct. Et je pense que c'était presque un prototypage, ce Resident Evil 3. Et je crois qu'il avait été créé comme ça, puis il avait été raccordé il avait été étiqueté 3 parce qu'ils avaient besoin de finir un cycle sur PlayStation. Maintenant, la vraie question, c'est oui, l'action est vraiment prédominante. En revanche, du côté des points positifs, je trouve que moi, j'ai passé mon temps à gérer mon inventaire. C'est-à-dire que j'ai passé mon temps le nez dans les... Et ça, j'adore ça dans Resident.
Oui,
j'adore
vrai,
passer mon temps, tu sais, dans ton coffre, à ajuster tes objets, à les cumuler, etc. Et j'adore ça. Tu vois, quand tu es sur le fil toujours, à calculer tes balles, ça, c'est ça, Resident. C'est vraiment ce côté gestion d'armes. Et le coffre, c'est peut-être le truc essentiel de Resident Evil. C'est comment tu gères ça. D'ailleurs, pour rappeler, on n'a plus les tampons encreurs. Et bien heureusement, parce que le point sur le côté aventure, c'est les énigmes. Hein. Ce sont les énigmes qui sont quand même très légères, je trouve. On ne peut pas dire qu'il y a un gros challenge sur les énigmes, mais c'est dommage. C'est toujours bien d'avoir des passages de... On se gratte la tête à trouver. Et là, je trouve que ça manque un petit peu. Là, on est vraiment sur un parti pris action, clair et net. C'est évident.
Franz ?
Après, ouais, sur le côté action, moi, ce que je trouve quand même intéressant dans cette série globalement, enfin, là, notamment dans cet épisode, c'est que on parlait, tout à l'heure, parler de zombies chair à canon. Je trouve quand même que le sentiment parfois d'être face à le sentiment d'être inondé de zombies fonctionne. Enfin, en tout cas, je trouve que le côté stressant du jeu fonctionne. Je trouve ça toujours marrant de se dire que si j'imaginais qu'à la place des zombies, c'était des Goombas ou des trucs comme ça, je serais beaucoup plus détendu et je jouerais beaucoup mieux. En fait, là, je trouve que l'ambiance marche tellement bien, c'est pareil face au Nemesis. Les créatures sont tellement flippantes et l'ambiance est tellement angoissante quand même que je perds mes moyens. Donc je n'arrive pas à bien viser. Je n'arrive pas à rester cool, quoi.
Mais c'est normal. Les zombies ils sont costauds. Enfin, c'est une vraie difficulté d'entrer le zombie dans celui-ci. Ouais. Vraiment.
Je trouve que de ce point de vue-là, je trouve le jeu quand même assez réussi dans son équilibrage de difficultés. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il est assez généreux en munitions, mais moi, je me suis quand même laissé prendre. Et donc, globalement, j'essayais quand même d'esquiver le plus possible. Et j'étais quand même un peu flippé des munitions. Et surtout, je me suis jamais considéré comme dans un jeu d'action pur où je roule sur le jeu. C'est pas que je roule sur le jeu, mais je veux dire où je me promène et c'est pas un souci si je meurs, je réessaye tranquille et tout. Enfin, je veux dire, je trouve que le jeu arrive quand même toujours à garder cette la pression mécanique. Sur le joueur qui fait que qui incite à la faute en fait.
Ouais.
Moi je trouve que c'est là-dessus que c'est quand même assez réussi, plus que par exemple que dans le 4 qui là pour le coup m'est vraiment apparu comme un shooter pur où j'avais globalement pas peur du tout.
Et c'est vrai que la représentation de Raccoon City est fascinante. Enfin, c'est vrai que on la connaissait en bitmap, en fond fixe à l'époque. Et là, c'est vrai que la voir en vue à la troisième personne, c'est fascinant. La moindre ruelle, tu as des effets de lumière quasiment systématiques. Hein, ça va être un halogène derrière toi qui va projeter des lumières. Tu as certains, je me rappelle, parmi les premières apparitions de zombies, ils apparaissent, tu vois les ombres avant tout arriver. T'as vraiment, et ça, je veux vraiment le souligner, tu as un vrai effort de mise en scène. Je pense que le moteur le permet et tu sens qu'il y a une vraie volonté de presque de resacraliser le zombie, ce qui ne se fait plus quasiment aujourd'hui dans la pop culture. Le zombie, il est partout. On vit quasiment, quand on voit l'actualité aujourd'hui. Non, et là, il est resacralisé, il refait peur. Par contre, le Némésis, moi, j'ai plus de mal sur l'évolution du Némésis, qui a, comme je disais tout à l'heure, il a du charisme, il fait peur au début, et à la fin, je vais pas spoiler, mais bon, il a quand même une évolution étrange. Je trouve que le personnage se délite un petit peu. Après, bon, c'est la logique résidente.
Je trouve qu'il souffre un peu du syndrome plus l'ennemi est gros, moins il fait peur en final.
Oui, clairement, c'est exactement ça.
Je pense que plus un ennemi est proche de la taille humaine, plus il est effrayant. Et effectivement, il souffre un peu de ça à la fin. Parce qu'on sait bien que plus il est gros, et au final, dans une certaine mesure, moins il va être dangereux.
Bah oui, c'est paradoxal.
Moins vif est le jeu, parce que il pourrait nous écraser d'un coup de main, mais on sait que le jeu ne va pas faire ça. Donc, il ne va pas nous faire ça, ce serait injuste. Donc au final, on se sent presque plus en sécurité
à la fin.
À mesure qu'il devient monstrueux.
C'est marrant.
C'est un peu paradoxal. Et d'ailleurs aussi, c'est vrai que comme ces apparitions sont scriptées, là, pour le coup, ça m'a presque rassuré par rapport à Resident Evil 2 où les apparitions de Mr. T, alors vraiment, c'était vraiment ma hantise, là. Parce qu'on entendait ses bruits de pas dans
Story
les couloirs.
X.
On
disait, putain, Story
ça y est, il arrive. X, pardon. Je confonds les noms. Je suis pas du tout bon dans le lore de Resident Evil. Mais je trouvais finalement que dans le 2, c'était presque plus flippant. Parce que là, c'est vrai qu'on sait, on sait que le jeu va pas nous faire,
T'avais les bruits de pas,
que le jeu va pas nous faire tomber dessus par surprise, quoi.
Ouais. Ouais, t'avais les bruits de pas que, qui le précédaient, c'était assez c'était super
horrible.
Et puis l'IA était extrêmement bien développée, il y avait ce côté où on testait un peu ses limites au début, on se rendait compte qu'il pouvait sauter, enfin, c'était absolument terrifiant de découvrir à quel point l'IA était poussée, quoi, alors que Nemesis c'est différent, c'est vrai.
Mais globalement, moi j'aurais tendance à conseiller à des joueurs qui n'ont pas fait ces nouveaux Resident de commencer par le 2, en plus qu'on trouve aujourd'hui en promo régulièrement. T'as des éditions spéciales complètes. Du 2, en plus, tu as tous les DLC intégrés. Et le 2 est d'une richesse vraiment. Enfin, il n'a pas vieilli. Enfin, il n'a qu'un an. Et moi, vraiment, je conseille de commencer par le 2. Et puis, évidemment, une fois qu'on l'a complètement retourné, on peut passer au 3 qui vraiment se présente comme une extension avec ses qualités, avec ses parties prises, etc. Mais vraiment, le 2 était tellement. Il était définitif, le 2 pour moi. D'ailleurs, je me rappelle quand on en a parlé, il n'y avait pas grand chose à dire sur le 2. Il était tellement. C'était un tour de force sur les mecs du 2. Là, il y a des questions sur sur la durée de vie, sur.
À vous écouter, la hiérarchie entre guillemets, la hiérarchie des versions originales est respectée. C'est-à-dire que en termes d'importance, ce remake du 3 est
c'est
sans
vrai.
Être totalement anecdotique, mais
c'est raccord.
Et c'est raccord avec ce qu'était le 3 par rapport aux deux originales, Julie.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je voulais juste revenir sur un truc par rapport à la sacralisation, parce que c'est vrai que c'est un défi qui était assez important dès la conception du remake du 2. C'est le fait qu'en 98, donc, lors de la sortie du premier Resident Evil, il y avait vraiment... je dis 98, c'est le 2. Mais lors de la sortie du premier Resident Evil, il y avait ce côté, les zombies donc étaient très inspirés de Romero. C'était pas devenu un truc qu'on voit dans tous les jeux d'horreur comme actuellement, quoi. Et eux, c'était dit en 2019, au moment de faire le 2, mais comment est-ce qu'on va faire pour les rendre à nouveau flippants? Et donc, il y a eu tout ce travail fait sur leur côté sans relâche, mais aussi sur le son, en fait, dont on n'a pas trop parlé, mais au niveau du son, c'est vraiment très, très bien fait. Enfin, genre, il y a vraiment ce sentiment où dès que tu mets le menu pause, t'en entends un crier au loin. Enfin, c'était vraiment très très bien fichu.
Ouais, c'est vrai que c'est pas serein la musique. Enfin, le son est pas du tout serein quand tu joues. Ça amène vraiment la tension. On parlait de cette tension. C'est vrai que ça dure 6-7 heures, mais c'est vrai que t'as une tension qui ne te lâche pas. Enfin, au niveau du son, dès le début du jeu. Alors moi, j'étais un peu déçu parce que les premières secondes, t'as de la full motion vidéo. T'as quand même une séquence d'intro en full motion vidéo. Et puis ça s'arrête là. Moi, j'espérais peut-être même qu'on en retrouve
j'avais
après.
J'avais une question d'ailleurs. Ils ont repris une séquence de FMV de l'original ou c'est
Je crois pas, non. Non, ça a été produit pour ça. C'est pour ça que bon, je vais pas spoiler, mais j'espérais peut-être un retour parce que la full motion vidéo et Resident Evil, c'est quand même cultissime quand on se rappelle l'original. Mais il n'y a pas plus que ça, ou alors j'ai peut-être des choses à débloquer que j'ai pas vues, mais bon, j'ai pas retrouvé malheureusement full motion vidéo après.
C'est
dommage. Il y a un boulevard là, Capcom. Il y a un boulevard pour remettre la full motion vidéo. En tout cas, peut-être anecdote, c'est sorti il y a quelques jours, mais on a appris que M2 Studio, qui a largement collaboré donc à ce remake du 3, qui a été créé par l'ex-directeur de Platinum Games, Tatsuya Minami, serait actuellement en train de travailler toujours pour Capcom, parce que Capcom fait partie de la boîte, etc., sur un autre très grand projet de remake pour Capcom. Ça va être. Mais j'ai envie de dire, tant qu'on nous livre des remakes de de ce calibre, comme tu disais, Franz, qui te donne envie de redécouvrir, allez-y. Tant que c'est aussi bien fait, t'as envie de dire continuer, quoi. Allez-y.
Donc Resident Evil 3, c'est 60€, je crois, à peu près sur tous les formats, que ce soit PC ou.
Pardon. Il y a du multijoueur, on va pas parler du tout de ça, il y a toute la section multijoueur, mais
on
reviendra peut-être dessus.
Juste une ligne, en gros, il y a un mode multijoueur qui vient faire office de cache-misère, mais disons que pour l'instant, les problèmes d'équilibrage sont trop conséquents pour diminuer l'impact du prix. Voilà.
Ouais, donc on l'achète pas pour ça, hein. De toute façon, on est d'accord que...
Ça s'appelle Resident Evil Resistance. C'est même pas intégré au même jeu, en tout cas sur PC. Il y a deux icônes différentes. Donc,
c'est bien ça, sur PS4 aussi. Il faut qu'il va falloir qu'il fasse ses preuves, ce jeu-là, parce que
c'est ça, on
n'est pas du tout dans la même problématique, on va dire.
On va terminer cette émission. Je voulais quand même le signaler parce que j'ai fini à peu près directement. Alors vous étiez déçus, ça dure 6 heures. Ici, ça dure un peu moins de 2 heures, mais on n'est pas trop déçus. Ça s'appelle Assemble Whisker.
You ever wonder why we get so attached to things? When you think about it, all this stuff we own is just screws and wires. Except sometimes it isn't. A whole life can be captured in the flash of a camera. Wounds healed by picking up a phone.
Donc le studio c'est Us2, le studio on le connaît parce que c'est eux qui sont responsables de ce petit chef-d'œuvre qui s'appelle Monument Valley, sorti en 2014, et sa suite Monument Valley 2, sorti en 2017. Donc ces jeux vraiment faits pour mobile, qui reprenaient voilà ces illusions d'optique à la Escher, c'est ça je crois, si ma mémoire est bonne.
Oui.
Us2 qui ont participé donc au lancement en fin d'année dernière de Apple Arcade, donc le système d'abonnement de jeux d'Apple, avec ce jeu qui s'appelle Assemble Whisker. Vu que je n'ai aucun appareil Apple, j'avoue que j'avais pas trop suivi au grand désespoir de Jeremy Kletskin, je n'avais pas trop suivi la liste des jeux qui sortaient, et là j'ai vu débarquer sur Steam Assemble Whisker, donc qui faisait partie de cette line-up Apple Arcade, qui est donc un jeu de bricolage. Et alors, pour vous faire... Mais oui, un jeu de bricolage, un puzzle game de bricolage qui est réalisé avec un savoir-faire artisanal, on va dire ça, on va appeler ça comme ça, qui est vraiment remarquable. Alors, c'est scénarisé, on est un peu... Il y a un petit peu un côté visual novel, comme ça, pour passer d'un bricolage, d'un puzzle de bricolage à l'autre. On suit l'histoire de Maria, donc on incarne Maria, qui est globetrotter, qui est réparatrice, voilà, c'est un peu son boulot, et qui arrive dans la ville de Bella Riva, et qui va faire connaissance avec une toute petite galerie de personnages, je crois qu'ils sont 4, il y a une gamine qui s'appelle Izzy, et son père, et puis il y a une restauratrice qui s'appelle Carmen, et sa sœur qui s'appelle Elena, voilà, c'est un peu tous les personnages auxquels on sera confronté, et on va, comme ça, réparer des objets. Alors ça va être une montre, une console de jeu, une boîte à musique, différents objets. Et voilà, ça va faire apporter l'histoire avec évidemment une symbolique derrière ce qu'on répare en tant qu'objet. On peut aussi réparer les choses dans la vie des gens. Enfin voilà, la symbolique est très claire, mais c'est pas trop envahissant. C'est-à-dire que c'est un tout petit scénario qui se déroule page par page, mais c'est des petites virgules narratives entre chaque puzzle. Les puzzles, il y a 13 niveaux annoncés alors on va dire il y a 10 vrais puzzles, parce que sur ces 13 niveaux, le premier on défait sa valise, le dernier on refait sa valise, alors on va pas appeler ça vraiment des puzzles pour le coup, et puis il y a un niveau anecdotique au milieu, mais voilà, je voulais vraiment signaler ce jeu parce que En gros, les niveaux, ça dure deux heures grand maximum, on va dire, pour tous les faire. Mais le gameplay est tellement parfait. Et le design, voilà, parce que quand je parlais de jeu artisanal, on a l'impression que tout est réglé un peu au millimètre. Quand on dévisse la façon dont à la souris, en tout cas là maintenant, parce que c'est et ça devait être en tactile avant et ça devait être très bien fait aussi, mais à la souris, quand on dévisse, on prend le tournevis, il s'accroche directement bien au vis, et avec un petit mouvement de la main, ça visse ou ça revisse ou ça dévisse. Enfin, tout est super bien fait.
C'est ce qu'on avait dans le PC là, le jeu de réparation de PC, il y avait un peu ça.
Ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé le jeu de réparation de PC qu'on avait fait. Je ne sais absolument aucun souvenir de comment il s'appelle, mais il était très bien, c'est vrai.
Simulator, je m'en rappelle plus, mais oui,
oui, c'était PC.
Les vis, ouais. les... mm-hmm.
Et sauf que là, bah, là, c'est plus des objets du quotidien. C'est réparer une petite statuette qui est brisée. C'est réparer une petite console de jeu où il y a le son qui marche plus et l'écran est cassé. C'est tout ce genre de choses. Donc
tu fais quoi quand tu l'ouvres?
On déboîte les éléments, on trouve visuellement ce qui ne fonctionne pas, la partie de l'électronique qui est cassée, on va la remplacer par une neuve, par ce genre de choses. Alors, on va dire que au niveau du challenge en termes de puzzle, on n'est pas très très haut. On est très très abordable. Pour tout vous dire, sur les 13 niveaux, le niveau 8, j'ai laissé la souris à mon fils qui a 7 ans. Il est arrivé au bout. Donc on avance dans le jeu. Ça fait super plaisir parce qu'en fait c'est très très bien fait. C'est pas la satisfaction vient pas du challenge, elle vient du plaisir qu'on a à manipuler les objets en fait. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est on n'est pas sur du puzzle où on va être hyper content parce que ouais on a réussi à faire que ça marche et c'était vraiment pas gagné et tout ça. Non, ça c'est gagné dès le départ pratiquement. C'est juste que la manipulation des objets, le fait de tout dépiécer comme ça au début et de tout remonter ensuite et que ça marche, en fait c'est une satisfaction vraiment de do it yourself en fait. C'est plus ça que la difficulté ou le challenge. Tout ça pour dire que le jeu et ses 10 puzzles se parcourent voilà en un peu moins de 2 heures et c'est un petit voyage qui est super agréable. Voilà, je voulais en parler. Le jeu, alors est-ce qu'il est cher, est-ce qu'il est pas cher? Il est à 5,60€ sur Steam. Voilà, vous pouvez estimer. Je vous ai pas menti. Voilà sur un peu l'univers et l'ampleur du jeu. Il sera peut-être en solde un jour et vous ruerez dessus parce que vous vous souviendrez que j'en ai parlé aujourd'hui. Ça s'appelle Assemble Whisker. C'est un très bel objet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Le visuel, peut-être. C'est
très beau.
Je n'ai pas vérifié le visuel du jeu. C'est pas beau ?
Hein ? Non, c'est pas beau, c'est ça ? Non, c'est très très beau.
Ah,
c'est
bon.
Très, très
beau. D'accord.
Moi, j'étais un peu curieuse du côté, parce que je suis assez attachée à tout ce qui est narration environnementale, et en regardant un peu le début du gameplay, j'avais l'impression que c'était un truc, oui, effectivement, sur des objets brisés, mais qui en disent beaucoup plus sur les personnes qui les ramènent, qui ont l'air tout à fait brisées, elles aussi. Et est-ce que là-dessus, c'est intéressant? Enfin, est-ce que le côté visual novel est intéressant, ce point de vue-là?
Il est gentil.
Ouais, c'est ça, ok.
C'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux, hein. On est sur des thématiques ultra vue, ultra revue sur la famille, sur l'incompréhension entre les gens, sur les choses cassées à l'intérieur qu'ils ne voient pas à l'extérieur, etc. etc., etc. Mais c'est suffisamment léger, c'est pas envahissant, donc on excuse tout à fait ça et ça se consomme très très bien et voilà, c'est pas relou en fait, c'est pas original mais c'est pas relou.
Ok.
Voilà, donc ça s'appelle Assemble Whisker, et je voulais juste en parler parce que voilà, être retombé dans un jeu et l'avoir fini comme ça aussi vite, ça valait le coup d'être signalé. C'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. J'ose espérer, hein, comme d'habitude, si vous écoutez cette émission, c'est que l'enregistrement s'est passé sans encombre jusqu'au bout, donc c'est déjà ça. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, même en mode confiné, et quand vous ne jouez pas, parce que, hein, malgré tout ce qu'on a dit, ça peut vous arriver aussi. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Comme le jeu vidéo, mon rapport au cinéma, à la télévision est un petit peu modifié par les circonstances. Donc j'ai tendance à me replier vers les valeurs refuge, on va dire, les doudous, les trucs qui font du bien. Et je vais parler sous la haute surveillance de France en lui disant que je suis retombé. Je revois beaucoup de Colombo.
C'est marrant, je n'en doutais pas du tout au moment où...
Il passe en haute rotation. Et bon, évidemment, je ne vais pas vous dire tout le bien que je pense de cette série qui est vraiment fascinante. Encore une fois, France en parlera 10 fois mieux que moi. Non, un épisode que j'ai vu cette semaine, qui est vraiment un de mes favoris, un épisode de la saison 5 qui s'appelle « La femme oubliée ». avec Janet Leigh qui joue une actrice qui est planquée chez elle, qui regarde ses films en boucle et qui va tuer son mari. Et alors c'est un épisode très particulier parce que évidemment il est fascinant parce que il rappelle évidemment Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, évidemment parce que on a cette figure d'une actrice enfermée chez elle, qui revit dans son passé, etc. Il est fascinant parce que tu as ce rapport d'un personnage de télévision qui rencontre plus que jamais des stars de cinéma dont il est fan. On le voit, hein, Columbo, pendant tout l'épisode, il dit « Ah, c'est vous et ma femme, etc. » C'est fascinant parce que c'est le clash de la télé de l'époque, l'image de la télévision de l'époque qui clash avec le prestige du cinéma. Et puis, c'est un épisode que je trouve vraiment, vraiment très bon parce que il se finit pas comme les autres. On n'a pas l'arrestation classique, on va dire, et puis le rapport que Columbo développe avec les protagonistes, notamment avec la meurtrière, est assez touchante. Et je trouve que c'est un épisode d'une justesse assez impressionnante. Femme oubliée, saison 5, un grand, grand Columbo. Et puis,
je suis obligé de laisser un peu la parole à Franz sur le sujet, quand même.
J'ai rien à ajouter, Patrick a excellemment bien parlé de cet épisode qui est effectivement un des meilleurs de Columbo, ouais. Un épisode extrêmement touchant.
C'est vrai,
extrêmement touchant, extrêmement fin. Ouais, et vraiment, c'est un superbe épisode.
Très belle, et je sais pas ce que t'en penses, même sa fascination à lui, qui est un personnage de télé, il est en plein Hollywood comme toujours, mais là, il est au contact de ces stars déchues et où le pire est arrivé. Et je trouve que son rapport à lui, de personnage de télé avec eux, est fascinant. Et vraiment, le final casse un peu le moule habituel.
Ouais, j'avais pas approfondi dans ma réflexion. J'avais pas approfondi sur cet aspect-là, mais c'est vrai que c'est intéressant. De toute façon, c'est vrai que dans Columbo, c'est souvent intéressant de le voir confronter. Non, des fois, il y a des sortes de mises en abîme aussi. Hein. Il y a un autre épisode où il enquête sur un assassin qui lui-même incarne un inspecteur de police. C'est vrai que dans Columbo, il y a souvent ce rapport effectivement à la célébrité, à l'image et au cinéma ou à la télévision. C'est vrai que, par exemple, c'est un aspect très intéressant de cet épisode aussi.
Et on peut signaler à cette occasion que tous les épisodes de Columbo ont débarqué sur Amazon Prime. mais c'est vrai, hein, je recommence à me refaire la saison 1 en ce moment. J'en suis.
Ah, c'est bon ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore évidemment les séries des années 70-80, mais rarement, comme Columbo, tu as des séries où tu peux revoir un épisode d'une semaine à l'autre, tu peux le revoir et y prendre autant de plaisir parce que tu vas voir des choses différentes. Tu vas avoir et puis ce personnage, en plus, dans cet épisode, on pourra en parler une heure, mais ce personnage, en plus, il essaie d'esquiver, en plus, un examen de tir. Et rien que ça, c'est fascinant parce qu'il veut pas aller faire cet examen. Et son rapport à l'arme à feu, enfin, vraiment, on pourra en parler des heures, c'est fascinant.
Par contre, juste précis, sur Amazon, il n'y a que la première période Columbo jusqu'en 79. Pas la deuxième période de 89 à 2003.
D'accord.
C'est moins bon globalement, mais il y a quand même des très bons épisodes dedans.
Oui, parce qu'il faut avoir. J'en suis au 4e ou au 5e de la saison 1. Là. Je me refais aussi.
C'est bien, c'est bien. Donc, tu as vu le Spielberg, tu as vu.
Bien sûr. Franz.
Moi, je continue de compléter ou de refaire un peu ma culture cinématographique, comme la semaine dernière. Donc, voilà. J'ai regardé les derniers jours, j'ai regardé Solaris de Tarkovsky. C'était bien. Bien aimé. J'ai beaucoup aimé le prologue sur la Terre. Je trouvais que c'était magnifique et ça faisait plaisir de voir la nature et de l'entendre filmer comme ça dans ce film. Donc, Solaris, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu La Cérémonie de Claude Chabrol aussi. Très beau film. J'ai compris pourquoi il avait été cité par Bong Joon-ho quand il a eu la Palme d'Or à Cannes. Sinon, il y a une parenté entre ce film et Parasite, clairement. Et puis, hier soir, j'ai regardé le 3e Indiana Jones.
Il est intouchable, le 3e.
Pour compléter mon jugement un peu hâtif sur le premier la semaine dernière.
Et non, ça me met du cœur, c'était pas hâtif, c'est ce que tu avais ressenti.
C'est très bien
qu'on en parle.
Et voir le 3e hier m'a conforté dans ce que je disais la semaine dernière, parce que le 3e est vraiment un excellent film. Je trouve qu'il est vraiment très 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 bon.
Il y a une densité.
Dans l'inventivité de la mise en scène et tout, il y a vraiment des séquences extra. Et je trouve qu'en regard, le premier apparaît d'autant plus faible à mes yeux.
on va pas relancer le débat. Julie,
moi aussi j'en profite pour mater pas mal de séries, lire des livres et des films que j'avais pas eu le temps de faire avant, mais le Je m'adonne aussi à une de mes occupations préférées, à savoir les mots fléchés. Mais alors, en fait, parce que ce n'est pas considéré comme un achat de première nécessité, je vais sur le site de Notre Temps, donc un magazine pour retraités. Enfin, donc, je suis clairement pas le public cible. Mais alors, il a ce truc assez intéressant, en fait, où tu peux cocher chaque case, inscrire les lettres une par une. Et en fait, une fois que le mot entier est trouvé, donc elles sont imbougeables. Et j'ai un petit faible pour les mots fléchés géants à thème. Celui du mois d'avril, ça sort tous les mois. C'est vin et vignoble. Je vous le recommande vivement.
Et du coup, il s'active quand il est bon parce que tu peux plus gommer
ouais,
tout ça. Alors.
C'est ça. En fait, tu peux changer les lettres, mais une fois que tout le mot est trouvé, donc ça facilite un peu pour certaines zones.
Ah ouais.
Mais du coup, ça permet, moi en tout cas, de me frotter aux difficultés type force 4 auxquelles je peux pas faire sur papier. Quoi. Voilà.
D'accord. Eh bien, je viens de découvrir l'existence d'un truc. Merci beaucoup. Eh bien, pour ma part, ça vient d'arriver. Je pense que je vous avais parlé des saisons précédentes, mais c'est la saison 3 de Ozark qui vient de débarquer sur Netflix. Ozark, c'est la vie de Marty et Wendy Bird, donc ce conseiller en gestion financière qui finit par faire du blanchiment d'argent pour le deuxième plus gros cartel du Mexique et qui s'exile dans un peu un trou paumé de Ozark, une région près de Chicago, une région de lac. Et voilà. Et donc, c'est vraiment un truc... Au début, on pouvait prendre ça pour une sorte de sous-Breaking Bad, voilà, de personnes de la vie normale qui débarquent un peu dans le trafic de drogue, et voilà, et la parenté est assumée, je pense. Mais il a sa propre originalité, ses propres personnages, dont l'incroyable Russ Langmore, voilà, qui est... Et je trouve que ça se tient vraiment bien. Alors, on a juste commencé la troisième saison, et ça continue bien. On a eu un peu de mal à se remémorer, parce qu'il y a plein dans c'est le genre de série où la saison 2 se termine avec plein de trucs qui passent dans tous les sens, et là tu commences la saison 3 un an plus tard, tu te souviens plus de rien. Je sais pas si vous avez aussi ce problème, mais on a été obligé d'aller sur la fiche Wikipédia, de revoir un peu les trucs pour mais au fait c'est qu'est-ce qui lui est arrivé à ce personnage, pourquoi, hein, et voilà, et on a réussi à recommencer, et voilà, et c'est très très cool. C'est la saison 3 de Ozark. Bah merci à tous les trois pour cette émission. Alors je ne sais pas si je regarde, il y a eu des coupes et tout ça, mais je pense qu'on devrait être un peu dans l'une heure et demie standard aujourd'hui. Bah merci aussi à tous, chers auditeurs. Prenez bien soin de vous dans cette période de confinement qui s'étire et qui va peut-être encore s'étirer pendant quelques temps.
Les jeux vidéo. Hein.
Ouais. On a le temps de jouer là pour le coup.
Ouais.
Et puis, à très vite. Et nous, donc, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, sur Libération et sur les Internet. Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.